Ça va se faire mal au dos, là.
Je frapperai.
Bien, si vous le voulez bien, on va débuter cette journée de formation continue des enseignants de l'Académie, consacrée donc à l'histoire des sciences et des techniques. J'ai toujours le même plaisir à vous accueillir, aussi nombreux. Et dans la salle, il y a bien une bonne moitié, voire deux tiers de visages qui me sont nouveaux, ce qui confirme l'intérêt suscité par ce stage. Le taux de pression d'un stage, c'est le nombre de personnes qui postulent vis-à-vis de la capacité d'accueil. Et ce stage présente le taux de pression le plus important, supérieur à 200%, avec des choix en vœux 1 par rapport aux thématiques de stage qui vous sont offertes. Donc des vœux 1 supérieurs à la capacité d'accueil elle-même. Ce qui m'oblige, exercice difficile, à sélectionner avec des critères qui n'ont rien de forcément rigoureux et discutable. Hein. Donc je le regrette. Mais c'est simplement la capacité d'accueil. Vous voyez bien que ce n'est pas la capacité de cette salle, puisqu'il y a encore pas mal de place derrière le rideau. Mais c'est une capacité d'accueil qui répond à des contraintes financières, bien sûr. Alors... vous n'êtes pas simplement dans la salle des stagiaires, donc des enseignants en poste qui intéressés par l'histoire des sciences et des techniques. Il y a parmi vous aussi, ça a été ouvert cette année, de jeunes collègues, des titulaires première année, hein, qui ont donc encore quelques heures de formation au cours de leur première et deuxième année. Et l'IPR de physique a souhaité inscrire cette journée parmi... les enseignements dispensés pour cette formation des néo-titulaires, hein, y voyant un intérêt fort par rapport aux formations classiquement dispensées. Je vais tout à l'heure donner la parole au directeur de l'espace Mendès France, à Didier Moreau. Il va sûrement vous parler des 20 ans de l'anniversaire, les 20 ans de l'espace Mendès France. Ce stage, on doit être à 9 ans, voire à 10 ans, à 10 ans de cette pratique de vous offrir tous les ans 3 jours de stage, composé d'une journée de conférence et ensuite 2 jours d'atelier. Et évidemment, le montage de ce stage doit beaucoup à Anne Bonnefoy, notre photographe du jour. Il est évident que sans elle, je serais bien incapable de monter ce type de journée. Donc je tenais à la remercier fortement. Je suis là en tant que directeur adjoint de l'UFM, qui en collaboration avec Anne participe au montage de ce stage. Je suis là aussi parce que je vais avoir la lourde responsabilité à partir de ce soir, 20h40, 20h45, de devenir le futur président de Mendès France. J'en suis honoré et ravi, mais je regrette une chose quand même, c'est que j'ai jamais raté une seule des 9 ou 10 années de séminaire, hein. Et maintenant que je vais être impliqué un peu plus dans Mendès France, eh bien, je ne pourrai pas vous accompagner au cours de cette journée, je le regrette un peu. Alors c'est un peu dû à mes nouvelles responsabilités à Mendès France. C'est aussi dû, et ça va vous parler, les enseignants publics de cette journée, c'est aussi dû à la réforme en cours de la formation initiale des enseignants, hein, l'obligation de construire des masters, qui fait que cet après-midi, je serai au CA de la Fac de Sciences, justement, et ça vous intéresse au premier chef, pour défendre nos disciplines maths, physique, SVT, et les disciplines à caractère technique et technologique, pour essayer de monter des masters de concert IUFM et Fac de Sciences pour éviter de passer à côté de cette réforme qu'on nous oblige. Hein. Je ne soutiens pas la réforme dans son principe, mais si on ne fait pas de maquette, d'autres universités en feront et l'université de Poitiers aura du mal à participer à la si nécessaire formation des enseignants dans nos disciplines. Voilà pour excuser mon absence. de la quasi-totalité de la journée. Alors, je vais y venir. Pour la journée d'aujourd'hui, donc, ceux qui n'ont pas émargé, il faudra le faire dans la journée. Hein. Et j'ai fait deux grandes colonnes. Hein. Il vous faut deux signatures, une pour le matin, une pour l'après-midi. Alors, certains d'entre vous anticipent pas mal, puisqu'ils ont déjà mis les deux signatures. Bon, j'ai rien contre, hein, c'est pas, je suis pas le payeur. Moi. Mais je dis pas que ça a été fait de mauvaise foi. Donc, Anne fera circuler ce matin, je sais pas de quelle façon, et cet après-midi, ça, c'est nécessaire à votre remboursement. Alors, madame, vous, donc, ce stage séminaire aujourd'hui, mais l'inscription est différente pour les ateliers de demain et après-demain. Mais une part importante d'entre vous suit ces trois jours. Et demain se pose le problème du mouvement de grève. Alors, à votre niveau, à vous, vous faites ce que vous voulez. Mais au niveau des intervenants, la configuration au niveau des ateliers, il y avait trois intervenants, le public partagé en trois groupes, qui tournaient en parallèle, donc trois demi-journées occupées, hein, et vous suiviez chacun des trois ateliers. Il se trouve qu'un des intervenants ne sera pas là, hein, justement pour raison de grève. Il reviendra, bien sûr. Donc, nous n'avons plus que deux intervenants. Je pense que la façon de faire, ça sera de diviser par deux le public et de faire deux ateliers, et on va tourner sur une journée, sur jeudi. Jusque-là, bon, ok. La difficulté... Oui. Et bon, un des intervenants demain de l'atelier, Patrick Matagne, fera une conférence ici à 20h30. Hein? Alors, la difficulté est que là, vendredi, donc il n'y aura pas de télé matin, mais l'après-midi, dans votre programme, il y avait une conférence, hein, donnée par Robert Halleux. Il serait bien dommage d'y être absent. Que faire pour occuper le vendredi matin et l'occuper utilement? Didier vous dira ce qui est en place pour les 20 ans de Mendès, mais il y a plein de choses ici à voir, hein, qui rappellent la vie de cet établissement sur les 20 dernières années.
Conférence vendredi matin, j'en parlais.
Ok, donc il y a ça de possible, hein, pour librement circuler ici. Alors il faudra peut-être passer à l'accueil pour voir comment vous inscrire, hein, de façon gratuite. Je pourrais moi aussi, si vous le souhaitez, jeudi matin, vendredi matin, je pourrais, dans une salle, par exemple celle-ci, vous projeter un diaporama que j'utilise en ce moment pas mal, qui concerne la réforme de la formation initiale des enseignants, les enjeux et la construction des masters qui se met en place à l'Université de Poitiers. Ça peut être aussi une source d'information non dénuée d'intérêt pour les enseignants que vous êtes. Voilà, mais si vous avez d'autres idées, bah, apparemment Didier a une excellente idée, bah, il va vous en faire part. Donc je suis encore, je vous remercie d'être là, ravi de vous revoir ou vous rencontrer pour la première fois. Et je suis persuadé que vous avez passé une excellente journée. Merci beaucoup.
Merci Mario. Bien. Alors rapidement, pour ne pas vous faire perdre trop de temps par rapport à votre programme, donc vous avez compris deux choses. Mario Cotron a deux casquettes et vous êtes des privilégiés. Donc Mario sera le président de l'Espace Mendès France ce soir. Puis vous êtes des privilégiés parce qu'en termes de contenu, ce à quoi vous allez assister aujourd'hui et ces prochains jours, c'est relativement rare, y compris en France. Il se trouve que dans quelques minutes, on va partir au CRDP pour animer un colloque sur la culture scientifique et son avenir avec une délégation marocaine assez importante, des représentants du gouvernement roumain, d'Angleterre, mais également des personnalités du Québec. Donc à l'occasion des 20 ans de l'Espace Mendès France, nous on a souhaité tout à la fois faire une présentation au public poitevin, donc cet établissement est ouvert toute la semaine de manière gratuite sur une multitude d'animations, mais également continuer à réfléchir sur la place de la culture scientifique, de l'histoire des sciences, des techniques dans nos sociétés. Et les trois jours, avec la journée particulière de demain, qui vous sont proposés, s'inscrivent dans cette démarche. Pour que les choses soient complètes, ce que vient de dire Mario, vendredi matin, on a la chance d'avoir le secrétaire scientifique de Edgar Morin, qui viendra faire une conférence qui est plutôt une causerie autour de la notion de complexité. La particularité, c'est qu'à 18h, nous sortons un ouvrage avec Edgar Morin, qui a été financé par l'UNESCO et qui fait suite à 3 ans de travaux de, je veux dire, de collègues à vous d'Amérique du Sud. Ils ont été plus de 8000 à travailler sur cet ouvrage, sur comment intégrer la notion de complexité dans l'enseignement et l'éducation. Alors, on peut improviser ensemble quelque chose sous forme d'une mobilisation de celles et ceux d'entre vous qui le voudront à 9h30. Alfredo Penavega, donc secrétaire scientifique d'Edgar Morin, jusqu'à 11h, fera une causerie autour de la notion de complexité. Il est enseignant à l'École des hautes études en sciences sociales. Moi, je travaille avec lui en ce moment dans le cadre d'une université européenne d'été sur les questions de développement, d'éducation et de réforme de l'université dans le cadre d'un réseau qui est financé par l'ONU et l'UNESCO. Donc ça, c'est une proposition qui rendrait utile pour vous votre présence à l'espace Mendès France, en sachant que la présentation qu'Alfredo Penavega vous ferait serait une présentation qui suscite interrogations et débats dans le sens de ce que nous souhaitons développer. Et à 11h, nous fêtons, on n'arrête pas de fêter en ce moment, les 20 ans de la revue de l'actualité scientifique Poitou-Charentes. Je ne sais pas si on vous en a donné. Donc, qui reste une des rares revues de culture scientifique actuellement en Europe, donc rédigée par toute une série de journalistes. Et à ce moment-là, à 11h, vous pourriez vous retrouver dans cette salle pour travailler avec Mario sur la proposition qu'il vous faisait autour de ce diaporama. Donc voilà, donc ça c'est une improvisation qui paraîtrait peut-être aller dans le sens de ce que vous faites. Alfredo Penavega anime des séminaires dans le monde entier, il est en Chine en ce moment, et c'est pour vous, enseignants, une forme de privilège, parce que ce monsieur travaille dans ce réseau mondial qui s'appelle Horus, qui est un observatoire pour la réforme de l'université et de l'enseignement supérieur et de la formation des enseignants. Beaucoup en Amérique du Sud, beaucoup en Asie. Donc sa présence vendredi matin pourrait, à votre niveau, susciter à la fois une réflexion sur les contenus et puis une interrogation sur vos pratiques. Voilà, en sachant que c'est à 9h30, donc, et c'est dans la cafétéria, puisque ça s'appelle le café de la connaissance autour de la complexité. Voilà, donc cette proposition, on peut vous la faire. Donc simplement vous dire que moi, je suis heureux de vous accueillir. Dans le cadre du séminaire auquel nous allons nous rendre maintenant, il y a en intervenant l'ancienne collaboratrice du Bercurien. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Bercurien, qui reste et restera un des grands ministres de la recherche en France et en Europe, célébré même en Amérique du Nord. Et Marie-Noëlle Favier, qui va intervenir, a été une des créatrices des centres de culture scientifique en France. Et je présentais Mario et j'expliquais ce qu'on faisait. Elle était extrêmement à la fois surprise et satisfaite de voir que, entre l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche, et un établissement de culture scientifique, donc quelque part entre l'académie et l'éducation populaire, il pouvait y avoir des liens. Et moi, j'ai rappelé que depuis une bonne quinzaine d'années que je dirige cet établissement, j'ai toujours indiqué à tout le monde, et je le laisse à votre réflexion, j'ai toujours indiqué à tout le monde que si nos sociétés ne parviennent pas à réallier ce que les Québécois appellent l'éducation formelle et l'éducation informelle, l'académie et l'éducation populaire, je pense qu'un jour ou l'autre, on ira dans le mur. Donc, d'une certaine manière, c'est une façon pour moi de vous dire qu'en tant que directeur de cet établissement, j'ai toujours fait en sorte que pour les opérations qui sont présentées au grand public, il y ait un retour du monde académique, de l'enseignement supérieur, de la recherche, mais aussi de l'éducation nationale dans les opérations d'éducation populaire que nous faisons. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas d'un côté les enseignants et une fois que le boulot est fini, après, il y a les professionnels de l'action culturelle qui se mettent en marche pour monter des opérations. Trouver des questions qui permettent de mobiliser tout le monde au service de nos publics, c'est un enjeu qui est extrêmement important. Alors vous posez des questions sur votre formation initiale, votre formation continue. Moi, je pose la question dans les temps qui viennent de savoir comment est-ce qu'on peut remobiliser vos compétences, votre intelligence et surtout la connaissance de vos publics au sein de l'éducation, les jeunes et les moins jeunes qui ont besoin de culture scientifique, d'histoire des sciences, d'aborder les questions d'éthique, d'aborder des questions qui permettent d'avoir un regard critique sur nos sociétés, parce que telle est la mission de l'espace Mendès France. Donc vous avoir dans nos murs alors que vous devriez être quelque part dans des mètres carrés de l'université ou du rectorat. C'est aussi une façon de manifester que la politique de la maison, elle est de créer concrètement cette alliance entre l'académie et l'éducation populaire. Donc vous aurez compris que nous militons largement depuis longtemps ici pour que l'enseignement et les enseignants, la recherche et les chercheurs soient mis en scène de manière positive et que la qualité du travail qui est fait puisse transparaître à travers nos actions. Voilà, donc si moi j'ai voulu en 92 créer un pôle d'histoire des sciences alors qu'on était les premiers en France à le faire, c'est aussi parce que je savais quelque part, et Anne peut le dire, que ce qui se passe en ce moment à l'Espace Mendès France autour de l'histoire des sciences, moi j'ai toujours dit que ça se passerait. On est un des rares centres à faire ça, et si vous avez la qualité de gens comme Robert Halleux qui viennent ici, c'est pas tout à fait par hasard. Et quand je regarde les noms des personnalités qui vont intervenir aujourd'hui, moi je trouve ça tout à fait remarquable, et cette chance, il faut pouvoir la saisir et en parler autour de vous. Donc je vais vous souhaiter bons travaux, parce que je pense qu'il y a plein d'interrogations aujourd'hui qui sont proposées. Et puis, encore une fois, vous dire que l'Espace Mendès France est ouvert à l'ensemble de vos préoccupations et de vos activités présentes ou futures. Merci.
Je vais laisser le soin à Anne de présenter notre premier conférencier.
Bonjour à tous, je ne serai pas longue parce que le quart d'heure Poitevin a largement dépassé. Je vous prie de nous excuser. Donc en effet, moi je trouve ça très important symboliquement que Mario Cotron, d'une part, devienne président de l'Espace Mendès France. Pour nous, c'est un honneur. Ça fait quelques années qu'on travaille ensemble et c'est toujours un plaisir. La notion de plaisir aussi dans le travail, je pense que vous savez que c'est quelque chose de très important. Ensuite, que Didier Moreau soit là aussi, alors qu'il devait être aussi RDP pour vous accueillir symboliquement aussi, pour nous, ça compte beaucoup. Et je pense que le discours qu'il a tenu par rapport justement au pont qui doit être fait entre l'enseignement et puis les personnes qui enseignent, c'est quelque chose de primordial. Et aussi ce qu'il a appelé, sans être vulgaire, l'éducation populaire. Moi, je suis contente de recevoir Jean-Louis Fischer qui me dit depuis quelques années, mais Anne, dis donc, quand est-ce que tu m'invites? Mais c'est une blague. Mais tu es déjà venu l'année dernière puisqu'on avait accueilli le colloque de la Société d'épistémologie d'histoire et d'épistémologie des sciences de la vie. Voilà le bulletin. Donc, s'il y a des personnes qui souhaitent adhérer, on a fait une petite photocopie de la dernière de couverture pour l'adhésion. Et donc, tu es devenu président de cette société qui fait un travail très intéressant. Et puis, je trouve aussi... Bon, je vais présenter Jean-Louis, mais je vais dire quand même vite fait que ça fait 7 ans et ça passe tellement vite. Là, je reconnais en plus des gens qui viennent d'habitude et qui sont accros de nos conférences. Donc, je trouve ça très, très gentil de votre part, de vous déplacer, de venir là, de faire tout ce travail aussi autour de l'histoire des sciences. J'espère qu'après, ça vous apporte quelque chose et que vous pouvez en parler à vos élèves. Et moi, j'espère aussi que les nouveaux modules tels qu'ils sont mis en place vont permettre à l'histoire des sciences d'exister, parce que ce qu'on fait ici, c'est absolument exceptionnel. Mais il faut savoir aussi, et là, en ce moment, il y a aussi la présidente de la Société française d'histoire des sciences et techniques, dont je suis secrétaire, qui milite, dans le véritable sens du terme, auprès du ministère, pour demander qu'il y ait plus de postes en histoire des sciences, parce qu'en fait, des postes, il y en a très peu. Donc l'histoire des sciences est faite par des gens qui sont des historiens des sciences, qui sont des philosophes des sciences, qui sont des historiens des techniques, etc., et qui ont soutenu des thèses en ce domaine. Ça, c'est clair. Donc Jean-Louis, venons à toi. Jean-Louis Fischer. Donc, qui est président de la Société d'épistémologie des sciences de la vie. Tu es chargé de recherche au CNRS, membre correspondant de l'Académie internationale d'histoire des sciences. Et en fait, tu organises des séminaires sur les... Tu es bien un des rares à faire ça, à travailler sur ce sujet avec quelques autres personnes, mais tu es à l'initiative de ces projets incroyables. D'abord, tu es spécialiste de la tératologie. Tu travailles sur les représentations de l'embryon humain, de la fécondation à la naissance, une approche pluridisciplinaire avec Patrick Triadou. Donc ton thème de recherche, c'est l'histoire des sciences de la vie, l'embryologie, théorie et méthode expérimentale et ses relations avec génétique et l'évolution, histoire des stations maritimes. Donc, tu es titulaire d'un doctorat d'État et lettres, etc., et sciences humaines, doctorat d'histoire des sciences, chargé de recherche au CNRS, chargé de cours d'histoire et de philosophie des sciences à l'Université de Paris 8. Donc, tu es lauréat du prix de la Fondation Singer-Singer-Polignac et du prix Marc-Auguste Pictet, histoire des sciences, prix international attribué par la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève. Donc, je ne peux pas citer tout ce que tu as fait. Je sais que tu as fait en presse pocket un livre sur Jean Rostand. Jean Rostand, le trouveur de vérité, avant-propos à Jean Rostand, confidence d'un biologiste, à la découverte. L'histoire des monstres, c'est passionnant, édition Cyros. Voilà, l'introduction et choix des textes en essence de la vie. Donc, tout ça, toute cette bibliographie très longue, j'en ai 10 pages, vous la trouverez sur Google si vous faites le site du Centre Coiré, donc vous saurez exactement qui est Jean-Louis Fischer. Ce que je peux dire, c'est que Jean-Louis Fischer est un ami de la maison et que c'est vraiment toujours un plaisir de l'accueillir. Il y a 2 jours, tu étais en voyage. En mission. Donc, je sais que tu travailles pour expliquer ce que tu fais, parce que j'en ai parlé hier soir à notre conférencière qui a dit que tu avais rencontré hier. Ouais. Il est en mission, il travaille sur quelque chose d'extraordinaire. Donc, voilà. Et là, le dernier ouvrage de nos historiens des sciences sont très, très hétéroclites, si je puis dire. Le dernier ouvrage, mais ça va dans le sens du travail que tu fais, de toute façon, Jean-Louis, bien sûr. Mais il s'appelle, c'est dans la collection La cause des bébés. Et c'est un livre de Jean-Louis Fischer qui s'appelle L'art de faire de beaux enfants. Voilà. Et vous trouverez aussi, bien entendu, tous les ouvrages, toutes les revues là en exposition. Et puis, si vous regardez sur Internet, vous saurez tout sur Jean-Louis. Donc, je suis désolée d'avoir été aussi longue et peut-être aussi familière, cher ami.
Non, mais je t'en prie, ce n'est pas un ouvrage pratique, hein, c'est un ouvrage d'histoire.
Mais c'est un ouvrage d'histoire. Je n'ai pas dit que c'était un ouvrage pratique. Je ne l'ai pas encore lu, je ne l'ai eu que hier. Mais enfin, bon, je vous invite à le lire. Bien entendu, ce n'est pas du Laurence Pernoux, c'est ça que tu veux dire. Voilà. Donc, bon, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Je suis à votre disposition pour toutes les questions quand je ne suis pas trop speed, pour l'organisation. Et puis, j'ai ce papier sous le coude, donc on se verra à la pause pour signer, ou je déléguerai à quelqu'un qui me le redonnera, comme ça sera bien plus simple. Et puis, on passe une excellente journée ensemble. Et puis, merci à tous et merci surtout à nos invités, donc Jean-Louis Fischer qui est arrivé, et puis M. Sartori qui est là aussi. Je vous parlerai de vous aussi tout à l'heure. Merci beaucoup à tous. Bonne journée. C'est comme tu veux.
J'ai un train. Bonjour. Donc, je vais vous présenter beaucoup d'images, en fin de compte, parce que l'image m'intéresse et vous intéresse aussi, dans le sens qu'une image doit être interprétée. Et pour interpréter cette image, eh bien, il faut des connaissances, il faut une certaine réflexion. Et c'est dans ce sens que je vais donc présenter cette petite conférence. Parce que je crois qu'il y a le thème général, c'était les sciences expérimentales. Il y a une chose, un aspect fondamental dans les sciences expérimentales, c'est l'interprétation d'un résultat expérimental. Et là, je ne vais pas en parler, mais on aurait pu en parler. Souvent, cela arrive, un résultat expérimental peut être interprété de façon totalement opposée. Et si un même résultat est interprété de façon opposée, c'est parce que celui qui interprète, il n'interprète pas seulement avec son regard et avec ses connaissances, mais il interprète également souvent avec une idéologie, avec une philosophie. Et là, on a quelques exemples en embryologie qui sont assez intéressants, mais je vous mets l'eau à la bouche, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. Donc, dans le système des représentations de l'embryon et du fœtus humain, si on en fait l'histoire, on fait une chose très très générale, là, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, il est évident qu'une grande part de l'imagination va jouer dans ceux qui vont représenter ce qui ne pouvait être représenté dans la mesure où il est dans l'invisible. L'embryon et le fœtus restaient longtemps dans l'invisible et il y avait une nécessité d'expliquer, de montrer ce qui était invisible dans des contextes théoriques en particulier. On va y arriver. Hop. L'interprétation d'image, bien entendu, souvent l'observateur, il ne voit pas forcément la bonne image. Il se donne une image, il se donne une interprétation. Et celui qui va devoir analyser cette image, bien sûr, il lui faut un certain nombre de connaissances. Il n'a simplement qu'une image, il n'a que l'image du lion, par exemple, bon, il va dire, bah, ça, c'est un lion. Mais s'il ne connaît pas le contexte dans lequel cette image a été donnée, il est évident que pour lui, l'interprétation va être très réduite. Mais s'il a une petite information historique, il pourra définir, en fin de compte, que cette image du lion, eh bien, c'est une image qui a été modifiée. C'est une image que la personne qui a donné cette image s'est modifiée parce que la personne voulait justement voir, non pas sa propre image, mais une image dans laquelle elle aurait aimé être représentée. Il y a un apport théorique qui peut être intéressant, en particulier dans le cadre des représentations thératologiques, on en parlera tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la théorie des géants, qui a été mise en place par Biedermann. Alors bon, je ne suis pas un spécialiste de la théorie des géants, s'il y a des mathématiciens dans la salle, ils connaissent peut-être un peu mieux ces théories, parce qu'il y a un aspect mathématique qui a été développé, qui est assez complexe, mais avec un certain nombre de formes. Ici, il y en a 5. Avec ces 5 formes, on peut réussir à construire à peu près 10 puissance 6 objets. Hein, ça veut dire que chaque objet, en fin de compte, et on retrouve un certain nombre de formes identiques qui permet une certaine reconnaissance. Alors ça, c'est pour les aspects d'objets. En anatomie, on peut également, à partir d'un certain nombre de formes, développer justement certaines morphologies ou reconnaître dans certaines morphologies qui ne sont pas tout de suite évidentes avec notre connaissance justement et avec certaines structures types, on peut reconstruire des morphologies réelles à partir d'images qui semblent un petit peu fantastiques. On en aura quelques exemples. Bon, ici, c'est simplement, on va passer assez vite, c'est à partir d'un cylindre, on peut reconstruire bien sûr un certain nombre d'objets. L'idée de la théorie des géants, c'est donc d'essayer de reconnaître une forme, et cette forme, bien sûr, peut prendre certains aspects, et dans la connaissance de cette forme, il y a des lignes, mais cette forme composée de lignes peut être également, peut avoir une autre représentation, donc il y a une logique, essayer de faire une relation entre ces deux interprétations de la même forme, et il y a l'analyse de la forme dans les traits, ça peut être un T, ça peut être d'autres formes, mais à la fin du compte, on peut arriver à une relation et à reconnaître la forme. Donc c'est ce qui va être un petit peu notre débat dans certaines histoires concernant la représentation de l'embryon et du fœtus humain. On demande souvent, mais quelles sont les plus anciennes représentations de l'embryon humain ? Alors, bon, voilà, dans l'ère néolithique, donc tarsien maltais, à Malte, vous avez donc quelques localités, en particulier une localité qui est dédiée à une déesse de la fécondité, et on a retrouvé ces formes qui ont été interprétées donc comme des fœtus humains. Il y a même parmi ces formes, on dit ça c'est tel jour, ça c'est un peu plus discutable. Mais si on fait une analyse en effet de cette forme, bon, en tant qu'embryologie, je vais dire, bon voilà, en effet, ça peut ressembler à un embryon. Il y avait entre 12 et 14 semaines, 5 semaines, c'est 7 mm, c'est un peu petit. Ce sont des produits d'avortement, hein, certainement. À cette époque-là, il y avait des avortements. Donc ces produits pouvaient être vus. On pense plutôt à quelque chose comme 9 semaines, à un pré-embryon qui peut faire 4 cm, qui est un peu plus visible. Alors c'est vraiment ces formes qu'ils ont voulu représenter. Ou bien peut-être est-ce simplement des coprolites, ça je ne sais pas. Donc on peut poser un point d'interrogation. Mais il est évident que le lieu où ces formes ont été trouvées peuvent conduire à ce type d'interprétation et à dire bah, c'est peut-être dans ces périodes que les premières formes d'embryons et de fœtus humains, tout au moins de fœtus humains ou de pré-fœtus, ont été représentées. Il y a des problèmes plus proches de nous dans l'analyse de la représentation. Et en particulier, la rosace de la cathédrale de Lausanne nous donne un exemple qui n'est pas inintéressant. C'est une rosace assez unique, en fin de compte. Et bon, comme ça, on ne voit pas grand-chose. Mais si je regarde ce petit personnage... Ce petit personnage va un instant m'interpeller. Et il m'interpelle un instant parce qu'il a une forme. Moi, je connais cette forme, je sais ce que c'est. Peut-être dans la salle, certains savent ce que c'est que cette forme. Il y a une inscription latine, Oculus Humerus. Et cette forme m'avait interpellé parce que, je sais plus, en 2004, je crois, il y avait une votation à Genève concernant le problème des cellules souches. Et une association d'intégristes catholiques avait donc diffusé sur leur site leur opposition, bien entendu, à ce problème des cultures des cellules souches. Et il présentait justement ce morceau de la rosace de Lausanne en disant Lausanne, la seule cathédrale avec un embryon dans ses vitraux. Hein. Donc ils ont interprété ça comme un embryon dans leur structure, hein, dans leur structure logique et idéologique. Ils nous disent que la traduction latine signifie les yeux d'un fer d'eau. Bon, en fin de compte, oculos humeri, ça veut dire les yeux aux épaules. Hein. L'humérus, c'est l'os de l'épaule. On pourrait là-dedans aussi s'intéresser au point de vue interprétation quand ils nous disent le point ci-dessus en bleu, c'est tout. Hein, c'est-à-dire, c'est tout le débat aujourd'hui de savoir si cet os, une, deux, quatre, huit cellules, est une personne, est un être humain ou pas. Hein, c'est-à-dire, c'est tout le problème. Est-ce que les potentialités, quelque part, représentent l'être ? Normalement, les potentialités sont des potentialités qui sont un devenir, mais qui ne sont loin d'être l'être. Donc, nous, dans cette interprétation de cette figure qui avait été interprétée comme un embryon humain, bien entendu, il ne s'agit pas du tout d'un embryon humain, mais il s'agit d'une représentation de ce qu'on appelait ces races tératologiques qui avaient été décrites en particulier par Pline, par Ctésias, et c'est ce qu'on appelait à l'époque les blémies ou les acéphales. Donc il y avait des populations, généralement c'était en Asie, il y avait des populations d'acéphales qui étaient généralement assez méchantes. C'était les découvreurs quand ils allaient découvrir les terres lointaines, ils revenaient avec des récits tout à fait fantastiques. On dit que c'était peut-être pour empêcher les autres d'y aller, mais toujours est-il qu'on a inventé. Alors on peut se poser le point d'interrogation, parce que là on va pouvoir interpréter, essayer d'analyser un peu plus en profondeur l'image. Est-ce que ces formes assez curieuses ont été vraiment inventées ou pas, ou comment elles ont été interprétées? Alors cet acéphale qui avait été représenté dans ces années 1400, dans ce dessin, était représenté bien sûr un peu plus tôt. On a essayé le plafond à bestiaire médiéval des années 1200 qui se trouve, c'est une maison à Metz, qui se trouve au musée de Metz, ce qu'on peut voir aujourd'hui, et qui représente des races tératologiques. Donc on revoit ici cet acéphale, hein, il n'y a pas de tête, la tête en fait compte, les yeux sont au niveau des épaules, le nez sur le thorax et la bouche en dessous. Donc il est évident que ce n'était pas un embryon, mais c'était bien la représentation de ces races tératologiques antiques, et on peut en donner une preuve, c'est qu'absolument à l'opposé, nous avons une autre représentation de ces races, siapodes, hein, c'est le siapode. On pensait qu'il y avait toute une race comme ça, d'êtres humains, qui possédaient qu'une seule jambe, avec un pied assez large, et on disait que ce pied leur servait à se protéger aussi bien du soleil que de la pluie. Alors vous avez cette représentation de la cathédrale de Lausanne, vous en avez une ici des chroniques de Nuremberg, hein, qui est assez jolie. Et alors ce siapode, comme cet acéphale, peut nous conduire à continuer l'interprétation, encore une fois, pour savoir ce qu'il représente réellement. Hein, ça c'est les races tératologiques de la chronique de Nuremberg, on reconnaît l'acéphale, on reconnaît ce que je viens de vous montrer, en fin de compte, puis il y a d'autres formes pathologiques aussi qui sont représentées là-dedans. Alors on va reprendre notre acéphale, et à partir de notre acéphale, on peut, sur un cas tératologique bien réel, hein, qu'on appelle le phallocyte acéphale, qui est une forme tératologique qui est toujours raccordée à un frère jumeau. Hein, ces formes tératologiques qui sont généralement acardiaques, c'est-à-dire il n'y a pas de cœur, seule cette forme peut survivre parce qu'elle est raccordée à un même placenta à un frère jumeau qui est généralement normal. Donc les acardiaques sont de ce type, les emphalocytes acéphales sont toujours raccordés à un frère jumeau. Donc on peut interpréter cette image comme étant une interprétation passée d'un cas bien réel tératologique. De même que les siapodes, peuvent correspondre, et correspondent certainement, à des formes des siréniens. Et même si on peut aller pousser un peu plus loin l'analyse, on s'aperçoit en fait qu'il n'a qu'un pied avec cinq orteils, et on pourrait dire que ce cas représente donc une sirène monopode avec en effet un seul pied et avec quelques orteils. Voilà donc cette forme de démarche à partir d'une démarche idéologique qui avait représenté ce qui avait idéalisé en fait cette figure comme étant un embryon humain. On peut remonter jusqu'à une certaine réalité pour essayer de comprendre comment des images anciennes, comment des représentations anciennes pouvaient quelque part, qui nous paraissent fantastiques et extraordinaires, avec quand même un fond de réalité. Bon, là, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, l'interprétation d'images. Nous avons chez Paré cet enfant avec des cornes qui a un peu un aspect diabolique, avec un arrangement, ses mains à griffes. On peut rapprocher, en effet, ces formes tératologiques à certaines exencéphalies. On reconnaît les formes, on peut peut-être faire intervenir un peu les géons là-dedans pour reconnaître certaines formes. Ici, ça pouvait être certainement la représentation d'une spina bifida. Enfin, il y a beaucoup de choses à discuter dans ces représentations. La représentation par elle-même du dessin de cette époque-là n'est pas toujours, qu'un fantastique. Et ces formes un peu bizarres peuvent correspondre à l'explication justement d'un cadre théorique. Et vous savez que pendant très longtemps, on a pensé la génération comme étant le résultat du mélange d'une semence masculine et d'une semence féminine. Hein, la femme, pendant longtemps, n'avait pas de vers, mais possédait des testicules féminins. C'est à partir de l'instant où on a compris que les générations se faisaient par les œufs, que la femme donc perd ses testicules féminins pour acquérir des ovaires qui deviennent des structures produisant des œufs. Alors, c'est l'histoire de la théorie du mélange des semences a perduré très longtemps, de l'Antiquité jusqu'à la fin du XVIIe siècle à peu près. On voit ici, chez François Morisseau, il dit bien: la conception n'est autre chose qu'une action de la matrice par laquelle les semences prolifiques de l'homme et de la femme y sont reçues et retenues pour en être engendrées et former l'enfant. Donc l'enfant est formé par ces semences. Et à partir de l'instant où on est dans ce contexte théorique du mélange des semences, on va pouvoir mettre en place toute une sorte de formation d'êtres tératologiques assez particulière. Alors, ici, bien entendu, nous sommes dans le fantastique, mais nous sommes dans un fantastique qui a une explication, justement, dans ce contexte théorique du mélange des semences. Alors, bon, je ne vais pas vous faire d'histoire ici, mais c'est une histoire qui remonte au temps des Égyptiens. Il y avait le culte de Mendès, où on enfermait des jeunes femmes avec un bouc pour accomplir l'acte de la génération. Et à partir de là, l'idée qu'il y avait une possibilité de génération entre l'humain et l'animal a donné naissance à toute une structure de tératologie fantastique avec ses formes mi-humaines, mi-animales. Donc, cet enfant mi-homme, mi-chien, bien sûr, avait toute une explication, a eu toute une histoire, il a été reproduit plusieurs fois et était compréhensible, justement, dans ce... Alors, il n'a pas de réalité, bien entendu, mais il était compréhensible dans l'aspect d'une théorie du mélange des semences. Et alors, avec ce mélange des semences, eh bien, il pouvait y en avoir de trop, il pouvait y avoir une surabondance de semences, ou il pouvait y avoir une diminution une quantité insuffisante de semences pour faire un être complet. Alors, quand il y avait une trop grande quantité de semences, il pouvait y avoir deux êtres, en effet, à peu près semblables, rattachés ici, joints par des parties postérieures. Donc, là, ici, c'est des formes reconnaissables, c'est des formes tératologiques tout à fait reconnaissables, qui sont ce qu'on appelle les pygopages qui sont reliés par les fesses. Ou bien, il y avait un peu plus de semences, mais pas suffisamment pour faire un être complet. Alors, on avait ce qu'on appelle des hétérodèles, des formes de jumeaux, ce qu'on appelle des jumeaux joints aujourd'hui. C'est un corps, c'est une forme tout à fait réelle. Elles sont réelles parce qu'il est évident que ces formes tératologiques sont viables. Donc, à l'époque, les médecins ou les dessinateurs pouvaient voir la réalité de ces formes. Et à côté de ça, bien sûr, dans ce cadre théorique d'une trop grande quantité de semences, il y a des aspects tout à fait fantastiques. C'est une servante qui trouve un œuf de poule avec un visage humain, avec des cheveux en serpent. C'est la représentation d'une tête de gorgone. Mais là aussi, le médecin qui va par témoignage, hein, parce que lorsque les médecins à l'époque font la description de ces formes tératologiques un peu fantastiques, ils ne les voient pas. Ils en ont connaissance simplement que par les témoignages qui sont apportés de village en village, d'autorités religieuses ou administratives qui rapportent aux médecins la chose. Alors, quand on dit au médecin, on a trouvé dans un œuf une tête humaine avec des cheveux en forme de serpent, et bien il demande à son dessinateur de dessiner un œuf de poule avec à l'intérieur une tête humaine et des cheveux en forme de serpent. Alors, l'histoire, bien sûr, a plusieurs hypothèses. Ça aurait été une poule qui aurait été fécondée par une vipère, parce qu'à l'époque, on pensait que les volailles pouvaient être fécondées par des serpents, et que cette poule aurait par hasard avalé de la semence humaine, et ça aurait donné ce mélange assez curieux. Bon, on cherche toujours, quelque part, une explication à donner à ce que l'on vient de raconter. Alors, défaut de semence, c'est pareil. Donc, on a là, ce sont des formes qui sont tout à fait réelles. Donc le dessin est relativement bien fait, hein, et on expliquait ça par un défaut de semence, mais on retrouve ici notre acéphale. Alors bien sûr, là, on peut retrouver nos ophalocytes acéphales, hein, mais on leur avait donné un caractère un peu ubuesque avec ses yeux, avec une trompe. Alors cette trompe est intéressante, ça peut être le cylindre d'un géon. Ici, il y a ces formes cylindriques aussi qui peuvent avoir une explication, on va en reparler bientôt. Donc on a un peu le mélange entre un fantastique et un réel. Et dans le fantastique, il y a du véritable fantastique, pourrions-nous dire, mais il y a aussi, quelque part, il peut y avoir également du réel dans nos analyses. C'est la tératologie de cette époque du 15e au 17e siècle, où on peut donc trouver des formes tout à fait extraordinaires. Mais on peut trouver des formes comme ça qui paraissent extraordinaires, mais ça qui sont vraiment une réalité. Ça doit être un chien qui est ainsi un cyclope avec ce qu'on appelle ici un proboscide. Et ce proboscide, qui est une reste d'une ébauche frontale, en fin de compte, va avoir une histoire qui n'est pas sans intérêt dans l'interprétation de l'image. Si on prend ce type de monstre, qui est un monstre qui était dans un traité de tératologie des années 1580, quelque chose comme ça. Ce monstre, bien sûr, a un aspect diabolique, avec sa queue fourchue, il a les doigts et les orteils crochus. Il a des yeux là sur le ventre, toute décoration. Alors cette trompe, ce cylindre avec cet œil rond, il y en a un autre qui est rajouté ici, peut, là on va faire un petit effort hein, d'interprétation, peut nous conduire à la forme de ce qu'on appelle une cyclopie à proboscide. Hein, chez le cyclope, la cyclopie, c'est le résultat au moment du développement embryonnaire. Le cerveau antérieur ne se développe pas, il y a un arrêt du cerveau antérieur qui permet aux deux ébauches oculaires de se joindre en une seule ébauche. Des fois elles sont à côté, des fois elles sont parfaitement jointes. Et souvent il y a cette espèce de petite trompe qu'on appelle un proboscide, hein, en rapport à l'éléphant. Et ce proboscide, c'est le résultat de l'ébauche frontale et nasale. Donc on peut reconnaître dans ces formes de trompe anciennes certainement un proboscide et certainement quelque part la naissance d'un enfant cyclope. Alors bien sûr, il est décoré ici. On s'était posé la question souvent qu'est-ce que ça signifiait, ces décorations, ces têtes de chien, de singe. Et on s'est aperçu qu'il y avait dans ces mêmes années, c'est un roi, sur leur armure, ils avaient aux genouillères, en effet, on retrouve ces décorations qui sont aux genouillères et des fois également aux coudes. Donc la représentation tératologique n'était pas simplement une représentation morphologique, mais il y avait autour de cette représentation toute une décoration. Donc il faut quelque part interpréter cette décoration, essayer de se concentrer peut-être sur un aspect morphologique particulier pour essayer d'analyser une telle formation qui peut paraître au premier regard tout à fait irréelle et fantastique. Mais il y avait certainement au départ une réalité. La cyclopie donc a fait beaucoup travailler l'imagination. Ça, c'est un vrai cyclope, hein, c'est un cyclope aprobociste. Et on retrouve dans les traités de tératologie des formes d'enfants avec une tête d'éléphant. Et on trouve alors tête d'éléphant, c'est une tête d'éléphant, parce qu'à l'époque, on disait que les oreilles des éléphants, c'était comme les ailes des chauves-souris. Alors le dessinateur a mis ici une chauve-souris pour montrer que c'est bien les oreilles d'éléphant et que c'est bien une tête d'éléphant. Alors une tête d'éléphant, ben, simplement parce que quelque part dans une campagne, il est né à un enfant avec une tête d'éléphant. Une tête d'éléphant, ben, c'était un enfant qui était certainement un cyclope avec un proboscide. Mais là, comme je vous le disais, que lorsque l'information arrive au médecin, l'information est passée par un certain nombre de personnes et de témoignage en témoignage, on arrive au final, à dire, voilà, il est né dans tel endroit, un enfant à tête d'éléphant. Et on dessine un enfant avec une tête d'éléphant. Là, ici, c'est Ganesha avec une autre explication. Les cyclopes aprobocytes ont été représentés donc, soit avec une trompe d'éléphant, des fois avec un fruit, ça pouvait être une poire. Et donc on a toujours cette forme du cylindre, et parfois ça pouvait être un sexe humain. Alors ça, c'est une représentation assez tardive, de 1691, et l'auteur nous explique, dans la formation de ce monstre avec une verge au milieu du front. Alors il écrit, il faut supposer que la femme grosse se soit imaginée vivement et avec surprise une semblable verge pendue à son front en s'efforçant de rapprocher au-dessous ses yeux l'un de l'autre, soit durant un rêve, soit en badinant avec son mari, ou bien en regardant attentivement quelques représentations d'une fête de Priap. Il faut dire que le médecin devait, à chaque fois qu'il y avait un cas particulier, il fallait toujours qu'il en donne, bien entendu, une explication. Il y avait, dans ces années-là, aucune explication biologique possible, bien entendu, à donner à une telle naissance. Le désir de la représentation, bien sûr, de l'embryon et du fœtus humain, il y a eu celui de la transparence aujourd'hui, hein, avec l'échographie, qui est le résultat d'une technologie militaire, on est depuis les années 70, habitués, le fœtus et l'embryon sont devenus des personnages actifs et visibles. Mais dans le temps, il y avait, dans la représentation de l'invisible, il y a eu quelques formes qui ont été imaginées. La plus ancienne est peut-être celle du Nouvel Empire égyptien, où l'on trouve ces Ré, le dieu soleil, qui tous les soirs disparaît. C'est-à-dire qu'il retourne dans le ventre de la déesse mère pour chaque matin renaître. Donc c'était le cycle égyptien du soleil. Et le dieu soleil, c'est aussi le dieu de la génération. C'est pour ça qu'il est représenté ici en érection. Donc on peut dire ici que nous avons, on va peut-être abuser un peu de l'interprétation, mais nous avons une première représentation de la transparence du fœtus ou de l'embryon humain. On a eu pendant un certain temps aussi, jusqu'au XVIe siècle, c'est le Concile des Trente qui a interdit ce type de représentation, les jugeant indécentes. Ça, c'est la visitation, hein, c'est la rencontre de Marie et de sa cousine Élisabeth. C'était la vieille qui a eu qui a été enceinte malgré son âge avancé. Alors, si je me souviens bien, elle est enceinte de 6 mois, déjà elle doit avoir une grossesse de 6 mois, alors que Marie c'est de quelques jours. Mais on voit que les deux fœtus sont absolument de même grandeur, et vous êtes allé comprendre pourquoi tout à l'heure certainement. Alors il y a de la transparence des ventres, mais il y a aussi de la transparence entre les deux fœtus. Donc ça c'est Jésus, ça c'est Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste salue Jésus, vous voyez, il se courbe devant lui parce qu'il reconnaît aussi également par transparence. Voilà, donc alors il y a eu son appel, c'est des vierges transparentes, donc il y a des personnes qui travaillent sur ces représentations. On remarque ici, alors les yeux ont été particulièrement arrachés, la peinture des yeux a été arrachée parce que ces peintures des yeux avaient un pouvoir magique. Donc généralement ce type de représentation aussi, il n'y a plus de peinture sur les yeux. Bon, c'est autre chose. La transparence a été aussi dans le cadre de l'anatomie, de la compréhension de l'anatomie des organes féminins et de l'utérus en particulier. Alors on ouvre l'utérus, on voit le petit fœtus là, qui se cache les yeux parce qu'il y a la lumière qui le gêne. Mais on voit bien sûr que aussi on a affaire à un fœtus tout à fait normal et prêt à naître, alors que bien sûr la grosseur de l'utérus n'a aucun rapport avec la représentation de ce fœtus, qui sera représenté tout le XVIIIe siècle, en fin de compte, de la même façon, que ce soit du premier jour de la fécondation jusqu'à la naissance. Le fœtus est là dans toute sa grandeur et sa perfection, attendant le moment de naître. Il ne fait que, en fin de compte, que grossir, c'est une croissance. Et cette idée justement de la représentation d'un fœtus dans sa totalité, dans sa perfection, se met surtout en place quand il y a vraiment une coupure entre du côté la génération par les semences et de l'autre côté la génération par les œufs. Pendant longtemps, donc, comme je vous disais, on pensait que la génération se faisait par le mélange des semences. Alors la femme produisait une semence, l'homme produisait sa semence, et les deux semences se mélangeaient, et l'utérus était partagé en poches. Alors là, il a 7 poches, des fois il en avait 4, il en avait 5, il en avait 3. Alors c'est toujours un nombre impair. C'est toujours un nombre impair parce qu'il y a une explication, bien entendu, dans cette structure anatomique. Lorsque les semences tombaient à droite, ça donnait un garçon, lorsque ça tombait à gauche, ça donnait une fille. Hein. C'était toute l'histoire antique. La droite, c'est la force et la chaleur, etc., etc. La gauche, c'est la faiblesse et l'humidité. Et lorsque par hasard, les semences tombaient dans la poche du milieu, ça donnait naissance aux hermaphrodites. Parce qu'on savait qu'il y avait des êtres de sexe incertain, hein, qui étaient des deux sexes. Donc il fallait comprendre pourquoi il y avait des individus des deux sexes. Et bien simplement parce que le mélange se faisait dans un endroit qui permettait de produire des hermaphrodites. Voilà. Et il est arrivé à un moment, c'est une grande révolution, en fin de compte, on connaît 3 grandes révolutions dans l'histoire de la génération. Il y avait cette idée du mélange des semences. Il y a une première grande révolution de coupure, qui était celle de la génération par les œufs. Il y a tout un processus, bien sûr, intellectuel, expérimental, d'observation, qui ont conduit à dire que même la femme se reproduisait par les œufs. Ça n'a pas plu à beaucoup, mais c'était comme ça. La démonstration allait être faite. Et la troisième grande révolution, c'est celle de la procréative, bien entendu, à partir des années avec la naissance du premier bébé éprouvette, hein, qui était en 1978, et avec la pratique de l'échographie, de la transparence, il y a eu toute une nouvelle forme qui a conduit justement à des structures idéologiques particulières sur la représentation du fœtus, de l'embryon et du fœtus humain. Donc, notre auteur De Graaf, qui était un Hollandais, c'est avec lui que se met vraiment en place cette structure, l'idée que ces testicules, qu'il appelle encore testiculus, hein, testicules féminins, ne produit pas de la semence, mais produit des œufs. En fait, ce que voit, ce qui avait déjà été vu de Graaf, ce sont les follicules, hein, ce sont les follicules ovariens, et à l'intérieur de ce follicule, il y a l'ovule qui sera le véritable œuf. Mais cet ovule ne sera vraiment découvert qu'au début du 19e siècle. Là, on est en 1672, quelque chose comme ça. Donc, on fait une démonstration par l'observation que tous les animaux, et l'homme, la femme également, se reproduisent par les œufs. Et on va mettre en place donc une théorie qui s'appelle le vice, qui est donc à l'origine d'un dogme créationniste et fixiste. C'est la préexistence des germes et leur emboîtement. L'idée est la suivante. Le clergé a un peu de mal à s'adapter, mais il s'est vite adapté, comme le dogme était biblique, ça a pu fonctionner assez rapidement. L'idée était que Dieu, avait créé, après avoir créé Adam, l'avait mis en torpeur et avait extrait de son côté Ève. Hein, Ève ne naît pas de la côte, c'était une erreur de traduction, c'est pas de la côte, mais c'est bien du côté d'Adam. Hein, Ève naît du côté d'Adam, et Dieu extrait Ève de son côté, donc il y a l'idée d'un emboîtement d'un fœtus, ou enfin l'emboîtement d'un être parfait, hein, dans un autre être. C'est l'idée donc de l'emboîtement des germes. Et l'idée, c'était qu'au moment de la création, Dieu aurait placé dans les ovaires d'Ève et dans les ovaires de toutes les femelles animales toute la descendance de l'espèce pendant un temps plus ou moins indéfini. Hein, c'était l'idée de l'emboîtement des germes. À un moment de la création, eh bien, Ève contenait toutes les descendances futures de l'homme. Alors ça posait beaucoup de problèmes, bien entendu. Au point de vue mathématique, ça posait des problèmes parce qu'on était à cette époque dans les discussions du calcul infinitissimal, hein, savoir si un nombre est divisible à l'infini ou pas. On s'est posé la question, est-ce que la matière, elle aussi, est divisible à l'infini ou pas? C'est-à-dire, est-ce que Dieu a voulu à un moment donné que l'espèce s'arrête, hein, si le nombre... Si la matière n'est pas divisible à l'infini, il faudra bien qu'à un moment donné, ça cesse. Ou bien si c'est divisible à l'infini, à ce moment-là, l'homme a une éternité. Mais dans tout ce système, bien sûr, c'est la femme qui est là vraiment le devenir de l'homme. Ça va également poser un certain nombre de problèmes. Alors ces représentations, on en a plein à l'époque. Hein. On parlait de Lausanne, hein, la rosace de Lausanne. Là aussi, vous avez également Adam avec Ève qui sort également de son côté sur une des petites représentations. Donc j'en ai pas mal. Alors dans cette idée de l'ovisme et de la génération donc créée par quand le créateur a créé sa créature et avec tous ses germes emboîtés les uns dans les autres pendant une façon indéfinie, a été représentée, certainement c'est la seule représentation qui existe, a été représentée en une série de cires qui se tient au musée de la Spicola à Florence, qui avait été initiée donc par Fontana. Et Fontana avait, c'était une grande école de céroplastie. Alors on ne connaît pas l'artiste qui a fait ça parce que les archives concernant les cires de la Spicola ont disparu. Donc il reste très peu de choses. Et l'idée, donc, c'est au moment de la fécondation, eh bien, il y a déjà le petit homme ou la petite femme qui sont dans leur état parfait. Et le développement n'est qu'en fin de compte qu'une croissance. Hein, c'est ce qu'on appelle à l'époque, c'est l'évolution. Hein, voilà, alors un terme à l'époque, comme au XVIIIe siècle, si vous lisez des textes du XVIIIe siècle, vous verrez parler de la théorie de l'évolution. Dans la théorie de l'évolution, ben, c'est simplement là une croissance, hein, c'est évolution, qui voulait dire déplier un parchemin, c'est-à-dire sur tout déjà était inscrit. Hein. Et le sens d'évolution va prendre tout à fait un sens contraire, hein, un sens créationniste et fixiste, avec Spencer dans la fin des années 1850. Hein. Donc là, il y a un changement de terme. Alors, il faut faire attention aussi dans l'interprétation des textes. Quand on lit un texte, des fois, il y a des mots qui ne veulent plus dire la même chose. Voilà, donc, cette représentation de la préexistence des germes et de leur emboîtement a été réalisée. Alors, vous voyez... Un fœtus de 20 jours, un fœtus de 18 jours, ça c'est la taille réelle de 3 mm, hein, de 2 mm et quelques. Bien sûr, ça n'a aucune relation, mais là on est dans le cadre d'une embryologie scientifique et là nous étions dans le cadre d'une préexistence des germes au XVIIIe siècle. Voilà, donc il y a le petit bonhomme qui croit, ici l'artiste a donné des formes différentes à chaque fois, donc il y a eu un effort de représentation. Hein, et c'est donc au moment de la naissance, à 9 mois, eh bien, c'est à peu près le même qu'il était à 15 jours, sauf qu'il a bien sûr qu'il a grossi. Alors à l'époque, les représentations étaient surtout des représentations en cire qui avaient des buts essentiellement pédagogiques pour instruire donc les obstétriciens ou les femmes qui accouchaient. Hein, pour les présentations différentes des fœtus. Là, ça représente des grossesses ovariennes, des grossesses extra-utérines. Hein, donc, ces cires avaient un objectif pédagogique important. Il faut que je termine, non?
Non,
mais je vois que tu me regardes sévèrement. On a pensé aussi, pendant un moment, c'était Fontana, il pensait que l'utilisation du bois pouvait être intéressante. Donc, alors ça, c'est une seule représentation en bois d'un fœtus prêt à la naissance. Mais il y a eu quelques... Au musée de la Spicola, donc, il y a quelques structures comme ça en bois, mais le bois a montré son défaut, c'est qu'il se déformait assez vite. Et donc les pièces ne pouvaient plus se raccorder, et on a laissé, on n'a plus utilisé de bois. Quoique l'acier aussi, hein, on a vu des cires qui avaient été conservées dans des greniers parce qu'on ne savait plus quoi en faire et qui ont complètement fondu. Hein. Hop. Alors dans ces... que vais-je dire là? Oui. Donc le XVIIIe siècle a été un siècle, on n'a pas spécialement fait de l'embryologie, mais on a fait essentiellement de la fœtologie, parce qu'on a représenté ce que l'on pouvait réellement voir. L'embryon lui-même a été difficilement appréhendé, parce que il n'y avait pas les moyens, il y a toujours dans une démarche scientifique, il y a quelque part aussi une volonté du scientifique de voir, de faire une démarche, de faire un geste, et le geste ou la pratique n'est pas une chose évidente, et il faut souvent beaucoup de temps avant qu'elle puisse se réaliser. C'est ainsi que va se mettre en place une véritable, pourrions-nous dire, embryologie scientifique à partir des années, on peut dire 1819-1820, où on va avoir les premiers embryologistes qui vont vraiment s'intéresser à la forme et au tout début du développement embryonnaire. Alors le premier modèle est un modèle très ancien, puisque déjà au XVIIe siècle, ceux qui s'intéressaient un peu au développement prenaient comme modèle l'œuf de poule. Dans l'œuf de poule, c'est facile, on fait incuber, puis tous les jours, on ouvre, et puis on peut voir un développement. Alors, dans le cadre de l'ovisme et de la préexistence des germes, comme il était dit que, vous avez bien compris, hein, que dès le départ, l'être était déjà dans sa perfection, il était déjà parfait dès le départ, et ce n'était qu'un grossissement. Alors, au XVIIe siècle, quand des anatomistes ont regardé comme ça les différents stades de l'embryon humain, de l'embryon de poule, ils ont bien vu que dès le départ, on ne voyait pas le poulet avec ses ailes, avec ses plumes, on voyait une espèce de truc assez bizarre. Alors comme je vous disais tout à l'heure, comme il faut toujours donner une explication à ce que l'on voit dans un cadre théorique particulier, là on a inventé la théorie de l'invisibilité. On a dit l'œil de l'homme est d'une structure imparfaite. Il est d'une structure imparfaite. La preuve, c'est que les microscopiques pistes de la fin du XVIIe siècle ont découvert tout un monde que l'œil humain ne peut découvrir. Quand on regarde une goutte d'eau, on voit des tas de bestiaux. C'est le Vénoc, hein, qui regarde du sang et puis qui découvre toutes les choses qui peuvent se trouver dans le sang humain. Et il regarde également du sperme humain et du sperme animal. Et il voit dans ce sperme des centaines de milliers de petites bestioles s'agiter. Ça posait énormément de problèmes pour la génération, mais là, on n'a pas le temps d'en parler. Donc, l'œil humain ne peut pas voir. C'est infiniment petit. Hein. On était confronté, il y avait l'infiniment grand d'un côté, puis de l'autre côté, il y avait l'infiniment petit, puis il y avait l'homme qui se trouvait un peu au milieu. Et comme l'œil humain est imparfait, eh bien, quand il regarde un embryon de poulet au début ou qu'il ne voit pas le poulet dans toute sa perfection, c'est parce que l'œil ne perçoit pas ce qui est déjà là. Et le développement ne fait que percevoir, ne permet de percevoir ce qui déjà préexistait. Voilà, donc on a une explication. Le poulet est déjà dans son entier, avec ses plumes, ses pattes, sa tête, mais on ne le voit pas. Et c'est le développement qui nous permet de voir ce qui était invisible au départ. Et puis comme ça, vous aurez à chaque fois des explications bien spécifiques et particulières qui permettent au système d'exister un certain temps, parce qu'à chaque fois, bien sûr, il va y avoir des critiques, et c'est par les critiques que les progrès avancent, qui incitent les scientifiques à progresser et à démontrer que l'autre a tort, et que les autres ont essayé de démontrer qu'ils ont raison. Donc l'embryologie scientifique va se mettre en place dans ces années 1820, et là on va donner de nouvelles représentations de l'embryon humain par le dessin et également par la cire. Alors il y a eu une école de céroplastie particulièrement importante c'était en Suisse le nom m'échappe à côté de Lausanne, c'est bon, peu importe. En Suisse, il y a eu donc cette grande école de céroplastie qui ont été aidées justement dans la représentation de l'embryologie humaine par un embryologiste qui était Wilhelm Hiss, qui a publié, on peut dire, vraiment le premier traité du développement de l'embryon humain. C'était entre 1880 et 1885. Bon, on avait déjà vu un petit peu quelques stades, quelques développements de l'embryon humain, mais c'est vraiment dans ces années-là, 1880 et 1885, je ne sais pas si loin que ça, où il y a vraiment les premières planches qui sont publiées du développement de l'embryon humain. Alors là, j'ai dû intervertir des choses. Donc on va commencer... On va commencer donc par des représentations de dessins. Donc, ils sont ce sont des planches déjà au stade fœtal, mais ce sont des planches qui sont bien détaillées. Et à partir de ces planches, de ces dessins. À partir de ces planches de ces dessins qui partent donc d'une structure réelle d'un embryon humain. À partir de cet embryon humain, on va le dessiner. On va le dessiner. Cet embryon humain aussi fera l'objet de coupes histologiques pour voir à l'intérieur, à différents stades, l'évolution de la morphogénèse de l'embryon. Et l'école de céroplastie va s'inspirer donc de ces formes, de ces dessins, et va reproduire donc par des moulages, par la technique de la céroplastie, soit en cire blanche, soit en cire noire, peu importe, parce que les cires ensuite sont peintes et sont colorées. Donc ça sera soit la morphologie extérieure, soit également la morphologie intérieure. Donc ces cires, alors l'école de Ziegler va fournir énormément de cires qui va alimenter toutes les facultés et les musées européens, où on aura donc le développement de l'embryon humain sur toutes ses formes et sous toutes les coutures et dans toutes les grandeurs. Là ici vous avez on en trouve dans plusieurs musées. C'est un embryon humain, donc il peut se par des systèmes de crémaillère, on peut l'ouvrir, on peut voir donc à l'extérieur et on peut voir également en profondeur les structures morphologiques. Alors l'idée bien sûr de avant surtout la pratique de l'échographie, l'idée de grossir et de voir l'embryon humain dans ces structures intimes, avait conduit jusqu'à assez tardivement, jusque vers les années 50-60, on faisait encore ce type de reconstruction. Moi, j'avais fait ça avec l'embryon de poulet. Et donc, on faisait des coupes histologiques. Les coupes histologiques étaient reproduites sur un grand panneau. Et on pouvait, avec un carton, on découpait, et ensuite les cartons étaient recollés, et on pouvait donc d'un embryon de 5 mm faire un embryon d'un mètre, par exemple, pour montrer en gros les structures. Alors ça, c'est des pièces de musée qui sont uniques, dont personne ne s'intéresse, et qui sont en train de... Je ne sais pas où elles sont en ce moment, c'est en train de disparaître, parce qu'on ne veut plus voir tout ça. C'est dans la représentation de l'embryon humain, on a aussi des formes de ce qu'on appelait la diaphénisation. C'est par des traitements de xylène, toluène, on rend les tissus translucides. Et avant, on fait une coloration du système osseux. Alors, ce type de pièce, il n'y en a pas tellement. Il y a une collection unique, c'était au musée des Saint-Père. Mais là, c'est pareil, cette collection, elle est mise en caisse parce que ça n'intéresse tout le monde, c'est sans intérêt. Ce type de collection a servi pendant très très longtemps de modèle en police criminelle pour l'investigation, justement lorsqu'il y avait un fœtus qui était retrouvé mort avec un squelette, pour savoir exactement déterminer l'âge suivant la structure osseuse. Donc ça aussi c'est des pièces de musée, mais qui sont en train de disparaître. Donc dans toute cette histoire de la représentation, qui était une histoire très minime et assez rapide, hein, bon, tu fais comme ça, mais je sais bien, tu ne penses pas. On peut terminer donc par une représentation un peu artistique et littéraire, même si je sais que parmi vous, il n'y a pas de littéraire. Si. Toi ? Bon, voilà. Alors, c'est pour toi. Maurice McNab, donc, était un chansonnier, poète, dessinateur qui se produisait à la grande époque du Chat Noir. Un jour a été visité le musée du Pitrin. Le musée du Pitrin, c'est un petit musée qui existe toujours à Paris. Et il a vu tous ses bocaux avec des fœtus. Et donc il a été inspiré par ces fœtus. Et il a fait un petit bouquin. C'est une grande poésie en fin de compte. Ça s'appelle Fœtus. Ça s'appelle Fœtus. Et donc c'est lui qui a fait les dessins. Hein. Heureux, sans vice, ni vertu, d'indifférence revêtue, votre cœur n'a jamais battu. Alors on voit bien sûr là que c'est un poète, c'est pas un embryologiste, parce que bien sûr le cœur bat très très tôt, même au stade, non, c'est simplement un tube, hein, ça fonctionne déjà. Bon, il y en a plusieurs pages comme ça, elles ne sont pas toutes là, je ne vais pas toutes vous les lire. Et terminait son poème comme ça, et s'il faut, comme je suppose, une morale à cette loge, je vais ajouter une chose, c'est qu'en dépit des prospectus de tous nos savants, les fœtus ne sont pas des gens mal. Hop, voilà. Donc, alors, dans l'interprétation, hein, on peut. Voilà, je vais choisir ce petit point-là comme modèle pour vous dire l'achèvement de cette présentation. Merci.
Merci beaucoup Jean-Louis Fischer, comme d'habitude. Donc vous voyez que il y a aussi dans ta présentation, et je te remercie non seulement la connaissance de l'embryologie que tu as de par tes recherches, mais aussi ce rapport art science qui est vraiment très intéressant, et j'invite en effet les auditeurs à se pencher sur ces problématiques-là. Donc art science, c'est un petit peu un fourre-tout, hein. Mais bon, justement, ce n'est pas un fourre-tout quand c'est fait comme ça. Hein. Et vous allez voir aussi tout à l'heure avec les autres conférenciers que ce rapport à la science, représentation de l'imagerie, etc. On parle maintenant d'imagerie médicale, mais vous savez, bon, l'imagerie médicale, elle a aussi une histoire, et puis l'imagerie scientifique a une histoire. Donc ça, c'est primordial, et j'étais un petit peu... étonné de t'entendre dire, alors qu'on est dans l'ère du patrimoine, bon, on peut s'enregistrer, c'est pas grave, en aparté, qu'en fait, bon, c'est vrai qu'en ce moment, il y a des gens qui sont missionnés pour, dans les lycées, récolter les anciens matériels de physique, de chimie. Et là, quand tu dis, bon, toutes ces merveilles vont disparaître, parce que ce sont des merveilles. C'est-à-dire que bon, les musées, les Italiens, je pense qu'ils sont plus futés que nous pour ça, les Suisses aussi. Mais alors nous, c'est vraiment... Bon, Jean-Louis sait de quoi il parle, parce qu'il se promène dans pratiquement tous les musées. Tu as parlé du musée du Pitrin, je vous invite à aller le voir. Il est à l'Odéon. C'est pas difficile à trouver. En sortant du métro à gauche, il y a une très bonne pâtisserie viennoise, et c'est en face. Donc là, je vous invite d'une part à acheter les gâteaux, d'autre part à aller visiter le musée du Pitrin. Et le directeur est un ami de la maison. Il est venu ici donner une conférence sur l'égyptologie et aussi connaît très bien Jean-Louis Fischer. Et c'est impressionnant, quoi. C'est vraiment impressionnant. Il y a aussi à Paris le musée d'histoire de la médecine, que je vous invite à aller voir, hein, qui est dans les mêmes coins. Hein. Donc il suffit de rentrer à la fac de médecine, demander à visiter le musée. Et toutes ces informations-là, vous les trouvez sur le site internet. Hein. N'hésitez pas à aller sur les sites internet. Donc voilà, donc moi je me pose cette question, Jean-Louis, quand tu te promènes comme ça, que tu vois tout ça, et quand même qu'il y a des gens qui ont des postes importants, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Écoute, voilà, je trouve ça anormal qu'il y ait des collections comme ça qui disparaissent, et en fait qui peuvent servir en effet à une éducation. Voilà, nous ici on est très motivés par ça, hein, puisqu'on a un centre de valorisation des collections de l'Université de Poitiers. Voilà. Donc j'attends ta réponse et puis je laisse la parole à la salle. Merci Jean-Louis en tout cas.
Oui, ça s'explique très bien justement par la troisième révolution concernant la génération, qui est celle de la procréatique. À partir de la procréatique, l'embryon et surtout le fœtus est devenu un personnage familier. Hein, on peut maintenant, on montre le le futur petit frère ou petite sœur qui n'est pas encore né, on peut le voir sur la télévision. Le petit frère voit déjà son futur petit frère sur la télévision. Il fait partie d'un personnage familial. Toutes les problématiques qui concernent justement l'embryologie humaine aujourd'hui, avec tous ces projets qui peuvent être faits, tous les possibles qui sont réalisables, hein, le choix du sexe, les mères porteuses par exemple. En France, on est dans des structures extrêmement rigides, hein, tout est interdit ici. Il suffit d'aller en Espagne, en Belgique, ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Donc on est dans le fœtus ou l'embryon sont devenus des personnes réelles qui appartiennent à la famille en fin de compte. Donc il y a l'Église catholique s'est beaucoup investie là-dedans, hein. Aujourd'hui on n'a pas, moi j'ai une alerte Google sur fœtus et embryon humain tous les jours, je reçois donc c'est, ils défendent leur idéologie, bien entendu. Ils sont quand même relativement plus ou moins écoutés, mais il y a une ligne de conduite qui est faite, qui a conduit justement à rendre obsolètes les collections de fœtus. Alors on dit, alors aujourd'hui on ne peut plus faire ça. Hein. Avant, il y a un cyclope naissait, on le mettait dans un bocal et on le mettait dans la collection. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins qui naissent puisqu'on les détecte très tôt au stade embryonnaire, donc on peut avorter, sauf dans des cas idéologiques où les femmes refusent d'avorter. Et on ne peut plus mettre en collection. Donc ils sont en train, mais c'est pas les choses ne sont pas encore très claires. On a décidé qu'à partir de, c'était jusqu'en 88, 85, 88, tout ce qui avait été mis en collection faisait partie de collections historiques. Mais ce sont des collections historiques, mais en France en particulier, et à Paris surtout, parce qu'à Lyon, ils ont une structure qui est assez intéressante, mais à Paris, personne ne veut s'en occuper. Au musée on a le musée Vernier, qui est un musée à Port-Royal, hein, qui a je ne sais plus combien des milliers de pièces qui sont là-dedans. Non, c'était fermé, l'assistance publique ne veut pas en entendre parler, tout ça c'est en train de se dégrader, de pourrir. Au Saint-Père aussi, il y a des collections extraordinaires. Les diaphanisations que je vous ai montrées, la plupart ont plus de liquide, donc c'est en train de disparaître. Et l'assistance publique ne veut pas donner de sous pour acheter du liquide et pouvoir remettre ces pièces en liquide. Donc tout ça, c'est en train de disparaître. Il n'y a aucune volonté vraiment pour sauver ces collections. D'accord. Parce que ça rentre dans un cadre moral, éthique. Voilà.
On a bien compris, c'était sous-entendu. Maintenant, la parole à la salle. Madame, vous aviez une question tout à l'heure.
Oui. Est-ce qu'on sait comment ils se procuraient les embryons pour faire leur cire? Parce que l'Église ne veut pas être tellement d'accord.
Oui. Il fallait énormément de cadavres. Hein, je ne sais plus combien le musée de la Spécola avait calculé, mais c'est des milliers de cadavres qu'ils devaient utiliser pour fabriquer leur cire. Parce que le musée de la Spécola, bon, je vous ai montré quelques fœtus, mais ils ont toute une collection de cire de corps humain, pour présenter les différents organes, les structures artério-veineuses, tout ça, ils ont des pièces assez extraordinaires. Et ben, pour les embryons, c'est pareil, c'était des résultats d'avortement. Voilà. Mais là, l'Église n'intervenait pas, non, je... Vous savez, dernièrement encore, l'Église n'intervenait pas. On a sur les foires pendant très longtemps, on montrait, il y avait toujours la baraque à un monstre. Ça a été un interdit dans les années 70, quelque chose comme ça. Pour, je ne sais plus pour quelle raison. Ça devait être ça correspondait à un 70, c'est la fin des années 70, c'est le premier bébé éprouvette, c'est tout le développement de l'échographie. On rentrait dans ces encore une fois, donc l'embryon, le fœtus devenant transparent, devenant familier, prenait le statut d'un être humain et donc allait vers cette idée d'un respect. On est un être humain, donc faut le respecter. C'est le problème du petit point bleu. Est-ce que l'œuf est un être humain? Est-ce que c'est une personne? Bon, voilà, c'est une question d'idéologie, hein, c'est pas une question scientifique.
Tu as aussi un site internet, il faudrait que tu donnes l'adresse de ton site, justement.
Il n'est pas ouvert.
D'accord.
C'est long parce que.
D'accord. Et je pensais aussi.
Oui. Non, je veux dire quand même. J'allais dire une chose méchante, mais je ne vais pas le dire.
Alors d'accord, ça enregistre, ça fait rien. Donc je vous invite aussi à lire un livre, justement, si tu connais peut-être Jean-Louis, qui vient de sortir sur l'utilisation des corps dans la science, expérimentation, qui est extraordinaire, qui s'appelle Les corps vils. Ça veut dire les corps qui étaient considérés comme étant plus humains et qui servaient aux expériences, à savoir les condamnés à mort, à savoir certains pans de la société qui n'est plus considéré comme rentable. Et c'est vraiment un livre très étonnant qui vient de paraître. Là, je vous donnerai les références.
Oui, ben, y a tout le problème des représentations en plastination. Tu sais, c'est une nouvelle structure de présentation de l'anatomie humaine. Vous avez entendu parler, là, des expositions body cortes. Hein, et en France, on n'a pas pu on peut pas la voir.
Cet artiste allemand.
Non, alors oui, il y a lui qui a inventé la chose, c'est un personnel assez particulier. Oui. Mais il y a d'autres médecins qui ont continué ces pratiques. Il y a eu à Londres, il y a quelques années, il y avait une exposition comme ça. Ce n'était pas le médecin allemand dont le nom m'échappe. Là. Donc en France, c'est interdit. Alors à Londres.
Oui. Oui, c'est ça. Ah, oui. Rochefort, même on emmène nos élèves. Enfin, je veux dire.
Donc, racontez l'histoire du musée.
C'est-à-dire qu'on
a. C'est un musée, j'ai pas vu, que j'aimerais aller voir.
L'ancien hôpital de la Marine, qui a été déserté dans les années 70, a été laissé à l'abandon. Donc, il y avait une collection qui servait aux médecins, à la formation des médecins, médecins-chercheurs, mais c'était surtout destiné à l'enseignement médical, qui est assez vieille. Et dans ce musée, alors maintenant, il y a une association qui s'est montée pour la sauvegarde du musée. Il y a des écorchés, donc oui, les écorchés sont... Mais il ne faut pas emmener des enfants. Il faut vraiment prévenir, parce que ce n'est pas un musée pour les enfants.
Mais des classes viennent, parce que...
Oui, mais des classes à partir du lycée. On les emmène à partir du lycée dans le cadre de recherche de... Voilà, il faut qu'ils soient prévenus. Il y a les têtes de bagnard, donc il y a toute cette science dont je ne me souviens plus le nom, qui, en fonction de la forme du crâne, ont décidé qu'ils étaient plutôt violeurs ou plutôt... Donc on voit toute cette série, on voit les écorchés, on voit tout un tas d'instruments de la chirurgie marine. On peut voir quand même beaucoup de choses.
À Lyon aussi, vous avez des collections. Non, mais là, je parlais des nouvelles techniques de plastination et de représentation du corps humain dans ces... dans des corps plastinés.
Vous avez évoqué un peu le désabandon un petit peu de toutes ces collections en tant que professeur. Il me semble avoir vu passer un courrier comme quoi il fallait lister les matériels qu'on était susceptible d'avoir, les planches anatomiques ou autres, un peu anciennes. Il fallait regarder dans nos... Enfin, moi, j'ai eu ce type de message. Regarder dans nos armoires, le fond des armoires, et si on n'avait pas, et les signaler et retransmettre.
Effet.
Hein, voilà, si on
avait en effet, ça, je sais, niveau des lycées, des anciennes structures, il y a des...
Et
en physique,
aussi,
physique, en particulier.
Mais en SVT aussi.
En SVT
demandé,
aussi,
oui.
Parce qu'il y avait des choses intéressantes qui sont jetées également.
Oui,
mais là, on est loin des collections de fœtus ou d'embryons humains.
Oui.
Qui ont, elles, surtout après l'affaire vous avez peut-être entendu parler de l'affaire des fœtus de Saint-Vincent-de-Paul, là, je peux vous dire qu'il y a eu des tas d'hôpitaux qui avaient des collections et se sont précipités à tout brûler.
Oui, en fait, pour rebondir sur ce qui a été dit par la collègue, en fait, c'est un BO de 97 qui circule actuellement, fait une photocopie. Et donc, en 97, des gens ont demandé de voir si on pouvait trouver donc des appareils, ustensiles, etc., planches, qui devaient être conservés, etc. Enfin, moi, je voulais intervenir concernant, finalement, les interprétations. Donc, peut-être que certains collègues qui ne sont pas biologistes restent un peu sur leur faim. Quelle est l'interprétation ? Oui. Donc, quelle est l'interprétation, finalement, que l'on donne actuellement de ces monstres ? Donc, on sait, en fonction des connaissances actuellement de génétique, donc donner une interprétation actuelle à ces monstres qui finalement est interprété de façon curieuse à l'époque. Donc est-ce que vous pouvez justement donner une interprétation moderne?
Vous avez une science qui est là, enfin, qui n'est plus tellement pratiqué, sauf par des anapathes, mais il y avait la tératologie. Hein. Moi, j'ai commencé dans un labo de tératologie à faire de l'expérimentation sur le poulet. Donc, la tératologie a servi pendant très très longtemps à expliquer le développement normal. Hein. On créait de la normale pour essayer de comprendre du normal. Et l'étude de la tératologie, ça nous permettait au début aussi d'essayer de voir tout ce qui pouvait être les causes d'une malformation ou d'une monstruosité. C'était l'époque de la thalidomide, par exemple, dans le laboratoire où j'étais. Après, on a fait des expériences avec la thalidomide. On s'était aperçu que c'était très tératogène chez le poulet, mais la thalidomide n'avait pas le même effet tératogène suivant les espèces. Et c'est à partir de là qu'on a décidé justement qu'il fallait, avant de lancer une molécule sur le marché, expérimenter sur différentes espèces animales. Donc aujourd'hui, ce soit la cyclopie, ce soit les pires des monstruosités létales, on connaît très bien les processus morphologiques et on découvre de plus en plus, il y a toujours quelque part un gène qui est responsable plus ou moins de la malformation, mais la malformation ou la monstruosité peut avoir donc un caractère génétique et un caractère qui n'est pas génétique, simplement produit par une substance, une pollution, enfin voilà. Donc ça, il n'y a pas de... La tératologie est très bien, relativement bien expliquée et comprise.
Une question sur l'intérêt des formes mathématiques, de la théorie mathématique, en quoi elle a été utilisée en
thérapie. Oui, alors ça, j'ai vu tout répondre, n'étant pas mathématicien. Vous allez sur Internet, vous faites théorie des géants, et vous allez avoir des textes avec plein de trucs mathématiques auxquels je ne saisis rien.
C'est une vraie utilisation.
Ah oui, tout à fait. Oui, dans des modélisations, mais là, je ne peux pas vous le dire. Moi, là, avec un ami, on essaye à partir de là d'essayer justement de donner quelque chose d'un peu plus concret pour si on peut utiliser ces formes de géants pour expliquer justement ces dessins un peu fantastiques, vous voyez, que je vous ai interprété comme étant à la base peut-être d'une réalité. On essaye de voir si on peut se servir de ces modèles. Mais au niveau mathématique, ça, je suis nul. Voilà.
Merci beaucoup, Jean-Louis Fischer. Merci infiniment. Vous êtes d'accord pour faire une pause? Bon. Alors, je suis désolée par rapport à notre conférencier tout à l'heure, parce qu'en fait, il faut qu'on prenne un peu l'air et on a toujours un petit quart d'heure de flottement à Poitiers, c'est pas un problème. Enfin, nous, ça ne nous pose aucun souci. Donc, merci à vous, merci à Jean-Louis. Et puis, je vous informe qu'on aura une journée d'études le 11 février sur l'évolution. Donc, pour ceux qui sont intéressés, c'est ouvert à tous dans cette salle. On espère qu'on aura assez de place. Donc ça s'appelle « Comprendre et enseigner la théorie de l'évolution » en partenariat avec Pascal Duris, qui est professeur à l'Université de Bordeaux 1. Donc vous aurez... vous regardez, le programme est en haut, puis vous le trouverez aussi dans notre plaquette. Et je vous invite à venir, parce que je pense qu'on a déjà une soirée sur l'évolution. Il y a eu 150 personnes ici, c'était vraiment complet. 5 heures avec l'évolution. 5 heures. On a eu 6 heures, en fait. Et puis là, bon, c'est en direction des enseignants, en partenariat avec l'UFM, mais aussi ouvert à tous. Hein. Donc... je vous invite à venir et arriver tôt le matin, si vous pouvez, parce qu'il y aura beaucoup de monde. Donc, à tout à l'heure. Et je vais prendre le papier pour le... Allons reprendre. Vous m'avez demandé des informations en aparté, donc je vais vous les donner tout à l'heure. Je vais faire des photocopies, parce qu'il est vrai que... je vous remercie de venir au stage, ne sachant pas ce que vous allez écouter. C'est quand même extraordinaire, hein. Ah, vraiment, certains ont réussi à trouver le programme sur le PAF, d'autres non, je sais que c'est pas facile à trouver. Là, pour ce qui concerne le programme de demain, je vais vous le photocopier et je vais vous le mettre en pile. Là, vous avez le programme d'aujourd'hui en pile, ici aussi à disposition. Donc il y aura deux ateliers en parallèle, un atelier de Patrick Matagne qui s'intitulera « Du fixisme à l'évolutionnisme, nouvelle représentation du monde ». Et le deuxième atelier, c'est de mesurer des grandeurs inaccessibles comme au Moyen-Âge ou à la Renaissance par Jean-Pierre Le Goff, qui est l'UFM de Caen, IRM de Basse-Normandie, historien des sciences et des techniques associé au Centre Coiré. Donc normalement, Sébastien Soubiran devait faire un atelier sur le patrimoine scientifique et l'enseignement des sciences. Il s'excuse, il y a grève, il vient de Strasbourg. Voilà, et donc il va revenir. Et donc c'est pour ça qu'il y a deux ateliers en parallèle. Donc demain, il y a ces deux ateliers. Et ensuite, le vendredi 30 à 14h, il y a une conférence de Robert Halleux
qui est membre de l'Institut, qui va donner une conférence assez percutante sur pas d'histoire des sciences sans histoire des techniques et réciproquement. Donc le papier, je vais le photocopier et toutes mes excuses, il y aura quelque chose de rayé parce que je n'ai pas eu le temps de le mettre en forme, je pensais que vous l'aviez. Hein, c'est pour ça. Donc ça c'est une première question. De toute façon, s'il y a d'autres questions, on fera des petits apartés comme ça. Je m'excuse auprès du conférencier que je présente tout de suite. Donc Éric Sartori, vous êtes déjà venu dans le cadre des Amphis du Savoir, donner une conférence auprès des étudiants ça fait partie du programme d'histoire des sciences des étudiants faculté des sciences en première année. Et en effet, les sciences, et Jean-Louis Fischer en a parlé aussi, les sciences sont faites par des gens. Et il y a quand même des petits problèmes qui se posent par rapport à la manière dont les femmes sont considérées dans le monde de la science. Là, c'est pour être un peu abrupt dès le départ, mais M. Sartori le sera moins que moi. Ça m'a semblé, quand j'ai vu ce que vous avez fait, je me suis dit, c'est incroyable, quelqu'un qui a écrit un livre sur l'histoire des femmes scientifiques de l'Antiquité au XXe siècle. Et en plus, Monsieur Sartori, on se demande quelle est la raison pour laquelle vous vous êtes intéressé aux femmes, parce que quand justement je vais présenter qui vous êtes, on va se demander pourquoi ce monsieur qui en fait est ingénieur de l'école supérieure de physique et de chimie, travaille comme chercheur dans l'industrie pharmaceutique et vous êtes passionné par la vulgarisation scientifique. Donc la raison est là, et par l'histoire des sciences. Et vous êtes l'auteur de nombreux articles et deux ouvrages historiques, l'histoire des grands scientifiques français qu'on a à disposition, l'Empire des sciences, Napoléon et ses savants, et vous avez donc écrit aussi un ouvrage sur l'histoire des femmes scientifiques de l'Antiquité au XXe siècle. Et vous allez nous parler aujourd'hui des femmes d'Hypatie, 2500 ans de science au féminin. Et voilà, 2500 ans de science au féminin, c'est énorme en une heure. mais voilà, je sais que c'est un sujet absolument passionnant et qui va vous passionner. Et on parle, bien sûr, et je pense qu'il est important d'avoir des notions historiques pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et ce plafond de verre va-t-il éclater un jour ? Donc, à tout à l'heure.
Voilà, plafond de verre ou plancher collant, comme disent les Québécois, ce qui est aussi bien. Je remercie tout d'abord les organisateurs de cette session de formation et Madame Bonnefoy de m'avoir invité donc pour vous parler de ce sujet qui me tient un peu à cœur. Et je dirais qu'en tant que scientifique, j'ai tendance à penser que la vérité est dans les chiffres et pas ailleurs. Alors juste quelques chiffres. À la fin de la seconde, ancienne manière, mais qui va peut-être encore le rester un peu, donc 25% des filles se dirigent vers la filière scientifique contre 40% des garçons. Si on passe à l'étage suivant, 20% des garçons s'orientent vers les classes préparatoires aux grandes écoles contre 9% des filles. À l'étage encore suivant, dans les écoles d'ingénieurs, les filles représentent moins de 25% des effectifs. Et enfin, si on va à l'étage suprême, les femmes représentent 8% des membres de l'Académie des sciences en France. 8%, ce n'est pas beaucoup, mais on n'est pas si mauvais que ça. La moyenne mondiale est à 3%. Voilà. Alors, pourquoi y a-t-il beaucoup moins de femmes scientifiques que d'hommes encore aujourd'hui ? Et pour vous prouver à quel point c'est un problème encore actuel, je vais vous parler d'un événement qui s'est passé il y a, je pense, 2-3 ans. Il s'agissait d'un président de Harvard, Lawrence Summers, qui s'est posé la question, donc cette question, pourquoi y a-t-il beaucoup moins de femmes scientifiques que d'hommes ? Pourquoi existe-t-il des inégalités en ce qui concerne les disciplines scientifiques, des inégalités persistantes entre les hommes et les femmes, malgré toutes les politiques anti-discrimination qui ont été mises en place, au moins en parole. Et sa réponse, c'est que le facteur dominant était d'origine biologique. Alors bien sûr, Lawrence Summers n'est pas complètement un idiot. Alors sa suggestion, sa réponse était plus nuancée. Il n'affirmait pas que les femmes sont moins intelligentes ou moins douées. Son argument était plus subtil. Ce qu'il expliquait, c'est que dans tous les domaines, que ce soit la taille, le poids, le QI, mais aussi les capacités mathématiques et scientifiques, des études statistiques démontreraient que l'écart type pour les femmes est moindre que celui pour les hommes.
Par exemple, il y aurait moins de femmes imbéciles ou criminelles que d'hommes et par conséquent aussi moins de femmes géniales. Oh, comme la recherche scientifique, c'est une affaire de génie, de personnalité extrême, donc il faudrait bien s'attendre à ce qu'il y ait moins de femmes que d'hommes dans la recherche scientifique. Alors, je crois que chaque fois qu'on a des statistiques et des lois sociologiques qui confortent si bien les idées reçues, il faut peut-être se poser des questions. En tout cas, Laurence Sommer aurait dû s'en étonner parce que quelques semaines plus tard, il a été contraint à la démission. Il faut dire qu'il avait encore aggravé son cas en s'excusant d'avoir tenu un discours qui pourrait décourager les femmes de s'engager dans les carrières scientifiques, ce à quoi il lui avait été répondu qu'il avait décidément une bien mauvaise opinion des femmes pour supposer que ses propos puissent avoir quelque effet en ce sens. Alors comment en est-on venu là ? Si l'affaire en est venue à la démission d'un président de Harvard, ce qui n'est quand même pas rien, c'est que je crois que Laurence Sommer n'avait pas compris qu'il y a une sensibilité particulière à ces questions, à la question féminine en général, et qu'il n'a pas compris pourquoi. Et s'il avait mieux connu l'histoire des sciences, en fait, il aurait réalisé que pendant des siècles, on a contesté la capacité des femmes à la science et même au savoir en général et même à toute activité intellectuelle. Et qu'en conséquence, les femmes ont été assez largement exclues de ce qui a constitué le destin caractéristique de l'Occident, le progrès scientifique et technique, et même qu'elles en ont, je vous en parlerai, qu'elles en ont été parfois exclues par la violence. Et je pense que nous payons aujourd'hui le prix de cette exclusion à travers une société qui reste encore hémiplégique, où les valeurs de progrès sont parfois radicalement remises en question. Alors c'est pour ça, pour répondre à votre question, c'est pour ça que j'ai pensé nécessaire d'écrire une histoire des femmes scientifiques, pour montrer que cette exclusion a bien existé, qu'elle a été réelle et violente, que la science s'est trop souvent non seulement faite sans les femmes, mais c'est parfois aussi faite contre elles, mais pour montrer aussi que cette situation n'avait rien d'inéluctable et que des femmes trop méconnues ont su s'illustrer dans les sciences, et ceci dès l'Antiquité. Alors d'abord, y a-t-il eu effectivement des femmes scientifiques ? Voltaire, qui pourtant connaissait bien l'une d'entre elles, Émilie du Châtelet, a écrit « Tous les arts », entendre au sens du XVIIIe siècle, hein, donc toutes les sciences, « Tous les arts ont été inventés par les hommes, aucun par les femmes ». J'ai parlé de l'exclusion des femmes de cette aventure scientifique et technique, mais cette exclusion a-t-elle été réelle ? Et est-ce que la question à se poser ne serait pas, non pas pourquoi si peu de femmes ont-elles été de grands scientifiques, mais pourquoi connaissons-nous si peu de femmes scientifiques ? Les femmes de science ne manquent peut-être pas dans l'histoire, mais elles ont peut-être été oubliées, ou encore peut-être des femmes ont-elles dominé des pans entiers de connaissances et de pratiques que nous ne reconnaissons plus aujourd'hui comme scientifiques. Alors la réponse à cette question, et je pense vous le montrer lors de cette conférence, c'est un double oui. Oui, de nombreuses femmes ont marqué l'histoire des sciences et ont été oubliées ou tenues pour négligeables, mais oui aussi, il y a bien eu une exclusion réelle, violente et même parfois criminelle des femmes de la vie scientifique. Alors, premier point, oui, effectivement, il y a eu des femmes scientifiques dans l'histoire et qui ont été oubliées. Il y a parfois de bonnes raisons à cela. La première, la plus évidente, c'est l'éloignement chronologique. Et je vais prendre un peu de temps pour nous replacer ou pour vous parler de la préhistoire et de l'Antiquité. Alors, la préhistoire, mais il existe aujourd'hui, en fait, un assez large consensus chez les préhistoriens pour reconnaître que ce sont les femmes qui ont porté la première révolution scientifique et technique de l'humanité, celle qui lui a permis de se rendre maître de la planète, comme dirait Descartes, celle qui a tout commencé. Je veux parler de la révolution de l'agriculture. Ce sont les femmes qui ont appris à reconnaître les plantes comestibles, à les cultiver, à les préparer, aussi à les tisser, en extraire les potions. Et en ce sens, les femmes ont été probablement aussi les premières pharmacologues. Quelle preuve en a-t-on ? Tout d'abord, ce n'est pas un hasard si dans toutes les mythologies, l'agriculture est placée sous le patronage de déesses féminines. C'est Ishtar en Assyrie, c'est Déméter et Cérès à Rome et en Grèce, et ce sont les mères du blé chez les Celtes et les Germains, et on retrouve cette figure de mère, les mères du maïs et de la pomme de terre en Amérique du Sud, les mères du riz en Indonésie, les mères du coton au Pendjab. Et là, il ne s'agit pas d'une vague association d'idées entre agriculture et fécondité, parce que lorsqu'on regarde ces déesses, elles ont généralement des attributions, des compétences qui sont tout à fait liées aux techniques agricoles. Il s'agit plus probablement du souvenir conservé par la mythologie du rôle que les femmes ont joué dans l'invention de l'agriculture. De plus, chez la quasi-totalité des peuples primitifs, étudiés par les ethnologues du 19e et du 20e siècle, ce sont bien les femmes qui s'occupent d'agriculture et aussi du tissage, de la préparation de diverses potions, etc. Témoigne aussi du rôle des femmes la transmission matrilinéaire des terres dans de nombreuses sociétés primitives. Alors c'est fait, le rôle des femmes donc, dans cette première révolution scientifique et technique de l'humanité, ce rôle-là est aujourd'hui assez largement reconnu par les préhistoriens, par les anthropologues, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ces découvertes n'ont pas encore marqué l'inconscient collectif, que les livres d'histoire, les musées, ont surtout retenu les hommes partant à la chasse et les femmes restant près du feu. Alors, rappelons que dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, la part de la cueillette effectuée par les femmes représente 70% de la nourriture contre 30% seulement pour la chasse. Rappelons aussi que donc 14 000 ans avant notre ère, dans le croissant fertile, ce berceau de nos civilisations, des femmes inventaient la culture de l'orge, la culture du lin, du millet, puis du blé. Et je voudrais conclure sur cette période par une phrase de Fraser, une citation de Fraser, l'auteur du Rameau d'or, qui n'est pas spécialement féministe, mais qui écrit ceci. « Somme toute, il semble que les femmes ont contribué plus que les hommes au progrès le plus considérable de l'histoire, à savoir le passage de la vie nomade à la vie sédentaire, de moyens d'existence naturels à des procédés artificiels. » Venons-en maintenant à l'Antiquité, et je vais vous parler de Théano, de Timicha, d'Hypatie, d'Agnodis, de Marie la prophétesse. Mais avant de vous présenter ces figures, je souhaiterais revenir sur un point, parce qu'on a parfois tenté d'expliquer que si la science est si misogyne, ça s'explique par ses origines temporelles et géographiques. Ses origines temporelles et géographiques, la science telle que nous la concevons aujourd'hui est née en Grèce vers 600 avant Jésus-Christ. Or, quand nous parlons de la Grèce, nous avons généralement en mémoire l'Athènes classique du 5e siècle, une société qui était effectivement très misogyne, où les femmes étaient exclues des théâtres, des banquets, des jeux, exclues évidemment de cette fameuse démocratie, confinées dans les gynécées, à l'exception des célèbres étaïres, telles Aspasie, la maîtresse de Périclès. Et en matière de science, nous avons en mémoire Aristote et Hippocrate, qui sont eux aussi marqués par cette société assez misogyne. Donc, un héritage grec, des origines grecques misogynes, et voici pourquoi les femmes seraient scientifiquement absentes. Oui, mais c'est un peu trop simple et c'est faux. C'est faux parce que la Grèce n'a pas été uniformément misogyne, loin de là, et que l'histoire n'y était pas écrite. Elle n'était pas écrite ainsi, elle aurait pu être totalement différente. Alors, je vous ai dit, la Grèce a découvert la science telle que nous la concevons, en gros avec l'école pythagoricienne vers 600 avant Jésus-Christ. La légende raconte que Pythagore, passant devant une forge où travaillaient sept forgerons sur sept forges différentes, déjà à trouver, et que Pythagore ait remarqué la beauté et l'harmonie des sons qui en sortaient et aurait compris que cette harmonie s'expliquait par les rapports des poids des différentes forges. Il aurait alors étudié un problème de physique célèbre, celui des cordes vibrantes, et construit une théorie mathématique de la musique selon laquelle l'accord harmonieux des sons dépend de rapports simples entre les longueurs des cordes qui les émettent. Alors, ça, c'est la légende, mais ce qui est sûr, c'est que les pythagoriciens ont étudié les nombres. On leur doit, par exemple, des choses aussi simples et aussi évidentes que les tables de multiplication à peu près sous la forme que nous connaissons. On leur doit la notion de nombre carré, le carré d'un nombre, de nombres triangulaires, de nombres hexagonaux. On leur doit bien d'autres curiosités mathématiques, comme les nombres parfaits. Ce sont des nombres qui sont égaux à la somme de leurs diviseurs, ou les nombres amicaux qui sont égaux à la somme de leurs diviseurs réciproques. Donc des choses déjà assez compliquées. On leur doit surtout les premières véritables démonstrations mathématiques, et par exemple la démonstration que la racine de 2 ne peut pas être un nombre rationnel, c'est-à-dire ne peut pas s'écrire comme le rapport de deux nombres entiers. On leur doit aussi une véritable théorie physique de l'univers basée sur la fameuse harmonie universelle, ce qu'on a appelé par la suite la musique des sphères. Et on leur doit surtout leur fameux slogan « Tout est nombre, sans nombre, nous ne connaissons rien », qui est par excellence la démarche de la science occidentale, en fait la mathématisation de l'univers, ce que Galilée reprend 2000 ans plus tard en disant « la nature est écrite en langage mathématique », expression dont on retrouve encore l'équivalent chez Einstein. Donc les pythagoriciens vivaient en communautés qui ont essaimé dans tout le monde grec, en sociétés fermées, élitistes, qui prenaient parfois l'allure de sectes. Ils se vêtaient uniquement de blanc, ils étaient strictement végétariens. Ils s'appelaient eux-mêmes la fraternité, mais en fait le nom de sororité leur aurait aussi bien convenu, parce que cette école, qui est à l'origine de notre science, admettait hommes et femmes sur un pied d'égalité. Alors la fameuse Théano, dont j'ai cité le nom au début de ce chapitre, la fameuse Théano était la femme de Pythagore, et elle prit la tête de l'ensemble de la fraternité pythagoricienne lorsque son fondateur mourut. Elle écrivit des ouvrages de mathématiques, de physique, de cosmologie, de médecine, qui accordaient une place importante aux notions d'harmonie, de mesure, de modération, d'accord du microcosme et du macrocosme, le tout basé sur des nombres, une espèce de version assez cool du pythagorisme. Une autre pythagoricienne dont je vous ai cité le nom, Timicha dirigeait la fraternité pythagoricienne de Syracuse. Alors les pythagoriciens, par leur richesse, par le fait qu'ils attiraient des élites, par leur mode de vie, parfois par leur influence politique, provoquaient la suspicion et la haine. C'est ce qui s'est passé à Syracuse, où le tyran Denis de Syracuse a fait comparaître Timicha devant lui et lui a ordonné de dévoiler les secrets des pythagoriciens, dont il attendait probablement force et richesse, peut-être immortalité, on ne sait pas. En tout cas, malgré les menaces, malgré les promesses, Timicha a refusé. Torturée, elle a fait mine de vouloir parler, puis lorsque Denis s'est approché pour recueillir discrètement ses paroles, elle se serait coupée la langue avec ses dents et la lui aurait craché au visage. Donc il revient donc, à travers cette histoire, on voit qu'il revient à une martyre pythagoricienne, finalement, le fait d'avoir incarné l'idéal d'une science pure, qui se sait peut-être un peu, peut-être forcément élitiste, mais qui refuse toute compromission avec les pouvoirs temporels. Alors, pour conclure, vous voyez que les pythagoriciens n'auraient jamais écrit, comme Kant, que les femmes n'apprendront jamais la géométrie. Pour témoignage de cette Grèce qui n'a pas été toujours la Grèce misogyne d'Aristote, pour témoignage également Platon, qui est totalement différent d'Aristote, qui est héritier des pythagoriciens, lui, et qui avait marqué au fronton de son académie que nul n'entre ici s'il n'est mathématicien. Et Platon écrivait à propos des femmes cette citation que j'aime beaucoup, parce que peut-être s'applique-t-elle encore aujourd'hui. « Rien n'est plus absurde que la politique dominante en notre pays, selon laquelle hommes et femmes ne peuvent poursuivre les mêmes carrières. Ainsi, l'État se trouve réduit à une moitié. » Voilà. C'est l'État hémiplégique, ou la société hémiplégique. Alors, je vous ai parlé avec Théano, d'une pythagoricienne, avec Timicha, d'une martyre pythagoricienne. Je vais franchir quelques siècles et vous parler d'une autre femme martyre, Hypatie. Cette fois, nous sommes à Alexandrie, vers 370 après Jésus-Christ. Alors, Alexandrie avait été fondée vers 330 avant Jésus-Christ par Alexandre le Grand, et c'était extraordinairement développé sous la dynastie des Ptolémées. À son apogée, Alexandrie comptait plus de 500 000 habitants et était sans contexte le centre intellectuel de tout l'Empire romain. Le phare d'Alexandrie qui signalait son port était l'une des sept merveilles du monde et restait célèbre. Mais Alexandrie pouvait s'enorgueillir de quelque chose d'encore plus fantastique, d'encore plus précieux, son fameux musée-bibliothèque, qui fut un fabuleux institut de recherche publique qui fonctionna pendant près de 700 ans. Et parmi les pensionnaires les plus célèbres de ce musée, on peut citer Euclide, qui a écrit ces fameux éléments qui donnent aux mathématiques la forme axiomatique qui reste leur forme canonique jusqu'à nos jours. On peut encore citer Ératosthène, qui a mesuré à Alexandrie le rayon de la Terre, Hipparque, Ptolémée, qui ont organisé l'ensemble des connaissances astronomiques de leur temps. Le médecin Hiérophile a aussi inventé la prise du pouls comme signe de diagnostic à Alexandrie. Donc Hypatie vécut à Alexandrie vers 370 après Jésus-Christ. Elle était la fille d'un astronome et mathématicien déjà célèbre, Théon, qui accorda la plus grande importance à l'éducation de sa fille, qu'il a envoyé se former à Athènes, aux deux vieilles institutions presque millénaires du lycée et de l'académie. De retour à Alexandrie, Hypatie obtint les deux chaires les plus importantes du musée, la chaire de mathématiques et la chaire de philosophie. Elle devint un professeur extrêmement populaire, enseignant les mathématiques, la physique, l'astronomie, la philosophie, qui attirait nombre d'étudiants. On la décrit se promenant dans Alexandrie, vêtue du manteau à capuche des philosophes, expliquant sans relâche des écrits de Platon, d'Aristote, des autres philosophes à qui souhaitait l'entendre. Alors dans cette Alexandrie qui était divisée entre Égyptiens et Syriens, entre sectateurs d'Isis, de Mithra, entre Romains, Juifs et Chrétiens de différentes sectes, Hypatie, cette dernière presque représentante du paganisme et du rationalisme grec, fidèle à ses valeurs, à la fois fascinait et choquait. Elle était respectée, les magistrats, en particulier le préfet romain Oreste, la consultaient sur les affaires de la cité, et c'est en fait cette influence politique qui causa sa perte. En effet, vers 412, un nouvel évêque, Cyril, qui s'appuyait sur les mouvements chrétiens les plus fanatiques, vous savez, les moines Stylites qui s'efforçaient de vivre en haut de colonnes. Donc Cyril, s'appuyant sur ce mouvement, décide de transformer la capitale intellectuelle de l'Empire, décide de transformer Alexandrie en ville purement chrétienne. Il s'appuie sur les esclaves, il s'appuie sur le ressentiment des Égyptiens dominés par les Grecs puis par les Romains. Il fait chasser les Juifs, mais il se heurte à l'opposition du pouvoir romain, à l'opposition du préfet Oreste et à celle d'Hypatie qui résiste à la christianisation forcée. Qui veut vivre et mourir dans la religion, si l'on peut employer ce mot, païenne et rationaliste de ses aïeux et de ses prédécesseurs. Alors, en 415, en plein carême, se produisit le drame. Hypatie passe en char devant l'église dite de Césarion. Un groupe de chrétiens en sort se précipite vers elle. Un témoin a ainsi raconté la scène. Hypatie fut arraché de son char et traîné dans l'église de Césarion. On lui arracha ses vêtements, puis ses meurtriers la rasèrent et lui déchirèrent la peau avec des coquillages aiguisés. Lorsque la vie quitta son corps pantelant, ils le brisèrent en morceaux qui furent enterrés au lieu appelé Cinaron et le brûlèrent sur un bûcher. Or, Oreste a dénoncé ce crime à Rome, a exigé une enquête qui n'aboutit pas. L'évêque Cyril a fait courir le bruit qu'en fait Hypatie était toujours vivante et réfugiée à Athènes. L'histoire s'est terminée, le préfet Oreste a démissionné et a quitté Alexandre. Donc voici encore l'histoire d'une femme scientifique, celle qui fut finalement la dernière héritière du savoir grec accumulé pendant 7 siècles à Alexandrie, la dernière résidente du muséum qui a cessé ensuite de fonctionner. Et si cet héritage grec nous est parvenu, c'est en partie grâce à Hypatie. Par exemple, si nous connaissons les éléments d'Euclide, ce texte canonique des mathématiques, c'est bien en partie grâce à elle parce que nous les connaissons à travers la dernière édition qu'elle en a faite avec son père Théon. Alors, on parlait de littérature et de science et de littérature. Hypatie a inspiré de nombreux poètes, dont par exemple le comte de Lille, qui lui a dédié un sonnet d'or aux blanches victimes en notre âme profonde. Bon. Alors, restons dans l'Antiquité, restons même à Alexandrie, mais là, je vais vous faire revenir au 1er siècle après Jésus-Christ pour retrouver une autre grande savante que tout le monde connaît, Marie la juive ou Marie la prophétesse. Je vous dirai un peu plus tard pourquoi tout le monde la connaît, mais déjà cette figure de Marie nous permet d'évoquer une autre science qui s'est féminisée plus rapidement que les autres, et cette science c'est la chimie. La chimie qui ne se distinguait pas à l'époque où nous parlons de l'alchimie. Alors vous savez que la légende attribue la naissance de l'alchimie aux manipulations des prêtres égyptiens manipulant leur richesse et celle de leur secte en fabriquant de l'or contrefait. Mais dans la réalité, à la naissance de la chimie, on trouve une autre origine où les femmes sont impliquées, et cette autre origine, c'est la cosmétique. Les premiers textes de chimie dont nous disposons sont des textes inscrits sur des tablettes d'argile en caractère cunéiforme. Ils datent de 1200 avant Jésus-Christ. Ils sont l'œuvre d'une femme, Taputi, qui dirigeait la fabrique de parfums du palais de Babylone et pratiquait donc et décrivait déjà des techniques maintenant classiques d'extraction, de distillation de principes actifs. Alors, Marie, la prophétesse, dans des textes qui nous sont parvenus, décrit avec une rare clarté ce qui va devenir la théorie standard, la théorie scientifique de l'alchimie. C'est-à-dire, cette théorie, c'est qu'il existe, pour les minerais et les métaux, une échelle de perfection qui va des minerais et des métaux les plus communs vers les métaux purs et ensuite vers l'argent et l'or, qui est l'or qui serait l'essence du métal, le métal porté à sa perfection. Et ce que explique la théorie alchimique, c'est que dans la nature, les minéraux évoluent naturellement vers les métaux qui évoluent eux-mêmes vers l'or, mais que l'art de l'alchimiste consiste à accélérer cette évolution naturelle par des procédés artificiels et que l'alchimiste est ainsi capable de transmuter des éléments pour les amener à une perfection plus grande et à la fin ultime du processus de les transformer en or. Mais en tout cas, ce que les alchimistes savaient très bien faire, c'était extraire les métaux des minerais. Peut-être une parenthèse sur l'alchimie, parce que certains historiens ont parfois affirmé que cette idée d'évolution des minéraux transportée dans le monde animal était à l'origine de l'idée d'évolution des espèces naturelles et finalement de la théorie darwinienne. Alors ça, je crois que c'est très faux, en fait. Les idées naissent rarement sous une forme aboutie, mais là, il existe une différence tout à fait essentielle, c'est que l'évolution des théories alchimiques est une évolution téléonomique, c'est-à-dire qu'elle est dirigée vers un état supposé de perfection, tandis que l'évolution darwinienne, elle, se fait par le hasard et la nécessité, pour reprendre la formule de Modo. Mais si on regarde ce qu'a été et ce qu'a représenté l'alchimie, on peut se dire qu'elle a été porteuse finalement de quelque chose de plus important encore, si l'on veut bien observer qu'elle est la seule science qui se soit d'emblée définie comme une science de la transformation. Les mathématiques, l'astronomie étaient des sciences d'interprétation, de contemplation. Et cette idée qu'il existe une évolution du corrompu vers le plus pur et vers le plus noble, c'est aussi l'idée que l'âge d'or n'est pas derrière nous, mais qu'il est devant nous, et que l'homme, par la technique et la science, peut accélérer l'évolution vers cet âge d'or, eh bien, cette idée-là, c'est tout simplement la matrice de l'idée de progrès telle qu'elle a triomphé en Occident. Alors, revenons à l'œuvre de Marie. Qu'on la baptise chimie ou alchimie, c'est une œuvre véritablement scientifique. Pour deux raisons. D'abord, parce que la théorie est sans cesse confrontée à des expériences qui sont décrites avec précision. Et deuxième raison, parce que cet exposé est exotérique, et non pas ésotérique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'emploi d'un vocabulaire spécial et complexe, volontairement trompeur, destiné à de seuls initiés, mais il y a bien des textes et des expériences que chacun, ou au moins tout homme ou toute femme de l'art, pour reprendre une expression courante, peut comprendre et reproduire. Donc, Marie a inventé des appareils relativement complexes. Le tribicos, le chirotatis, ce sont des appareils qui permettent de sublimer des minéraux, de les purifier ou encore de préparer des alliages, notamment des oxydes ou des sulfures métalliques. Elle a étudié systématiquement l'action de vapeurs de soufre, de mercure, d'arsenic sur différents métaux. Elle savait préparer les sulfures de différents métaux, puis les réduire pour obtenir ainsi des métaux plus purs selon des techniques qui ont été ensuite des techniques traditionnelles utilisées dans les mines et par les minéralogistes. Alors, en fait, je ne vous ai pas dit pourquoi tout le monde connaît Marie, la prophétesse. Tout simplement, c'est qu'elle a laissé son nom au plus humble et au plus répandu des instruments de laboratoire, qui est le bain-marie. Ça marche aussi en allemand, hein, Marienbad. Par contre, en anglais, les Anglais appellent ça Waterbach. Je ne sais pas s'il faut en déduire que les Anglais sont plus misogynes que les autres nations. Quatrième femme scientifique de l'Antiquité dont je voulais vous parler. Et là, je vous propose maintenant de revenir à Athènes, vers 300 avant Jésus-Christ. Pour vous parler d'une certaine Aïnodis et surtout pour vous parler d'une autre science, la médecine, parce que ce sera aussi l'occasion de montrer combien l'éviction des femmes de la science a pu être brutale et même criminelle. Alors, la médecine traditionnelle grecque était organisée autour des temples d'Esculape, admettait des femmes prêtres et guérisseuses. Pour mémoire, d'ailleurs, les filles d'Esculape s'appellent Hygiée et Pangée et possèdent des pouvoirs de guérison, un reflet ancien du rôle des femmes aux époques préhistoriques dans la découverte des simples. Mais lorsque Hippocrate de Cos invente, avec la fameuse théorie des humeurs et de l'équilibre des humeurs, invente une médecine rationnelle, à peu près vers 400 avant Jésus-Christ, les femmes ont été exclues de cet enseignement. Alors, n'empêche que des femmes médecins et même chirurgiennes exerçaient dans différentes villes grecques, mais elles se sont progressivement trouvées confinées à la gynécologie. Pour une raison évidente, c'est que les médecins grecs manifestaient, et pas seulement les médecins grecs, je crois que la conférence précédente l'a bien montré, manifestaient une ignorance confondante en physiologie féminine. Ainsi, Aristote décrit par exemple l'utérus comme une espèce d'animal autonome qui se déplace dans le corps des femmes et qui parfois saisit de convulsions bizarres. Vraiment. Et la situation a empiré encore à Athènes au IVe siècle, où, selon un schéma qui s'est souvent reproduit dans l'histoire, les femmes médecins qui pratiquaient encore ont été accusées de pratiquer l'avortement et la contraception. Et à ce moment-là, une loi leur a définitivement interdit l'exercice de la médecine et de la chirurgie, et cela sous peine de mort. Et comme à chaque fois, cette situation s'est reproduite dans l'histoire, elle était catastrophique parce que beaucoup de femmes, que la pudeur empêchait de se faire soigner par des hommes, au surplus complètement ignorants, ont péri en couche ou de maladie. Alors, vers 300 avant Jésus-Christ, une fille d'une noble famille athénienne, Agnodice, s'est rebellée contre cette situation. Déguisée en homme, elle est partie pour Alexandrie afin d'y étudier la médecine auprès du maître le plus célèbre, Hérophile, dont je vous ai déjà parlé. Hérophile avait inventé un instrument pour mesurer le pouls. Il avait compris le rôle du cœur dans ses battements. Il n'était pas loin d'avoir une première idée de la circulation sanguine. On sait qu'il pratiquait des dissections de cadavres humains et en public devant ses élèves, ce qui n'était absolument pas interdit par la religion grecque, mais ce qui était quand même extrêmement rare. Et on lui doit la première description anatomique du cerveau. Il était aussi connu pour avoir réussi l'accouchement de quintuplé. C'est donc auprès d'un très grand maître et même finalement du médecin le plus célèbre de son époque qui a étudié Agnodice, toujours déguisé en homme. Et de retour à Athènes, elle n'a eu aucun mal à trouver une clientèle. Et bizarrement, cette clientèle était quasiment exclusivement composée de femmes. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Agnodice avait d'abord proposé ses services à une femme malade qui refusait de voir un médecin homme et qui a refusé tout soin avant qu'Agnodice ne lui dévoile son véritable sexe et qu'ensuite sa réputation s'était répandue de bouche en bouche parmi les femmes d'Athènes. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les autres médecins d'Athènes, qui étaient jaloux des succès de leurs nouveaux collègues, ont accusé Agnodice, qu'ils pensaient toujours être un homme, d'être un de ces médecins qui, pour citer le texte, qui profitent de leur prestige et de leur art pour séduire les femmes. Crime qui était réprimé. Alors, lors de l'enquête, évidemment, le véritable sexe d'Agnodice a été dévoilé, ce qui n'a pas du tout arrangé ses affaires, puisque selon la loi athénienne dont je vous ai parlé, elle devenait alors passible de mort. Le jour de la comparution d'Agnodice devant le fameux tribunal d'Athènes, devant l'aéropage, les Athéniennes ont envahi le tribunal, ont apostrophé, injurié les juges et ont fait tenter si bien que non seulement le tribunal n'a pas condamné Agnodice, mais qu'il a aboli la loi interdisant aux femmes l'exercice de la médecine. Une victoire importante donc qui a permis aux femmes d'être mieux soignées, qui a eu un retentissement dans tout le monde grec parce qu'Athènes donnait le pas et même ensuite dans l'Empire romain parce que les premiers véritables médecins romains venaient de Grèce. De façon générale, il faut d'ailleurs constater que Rome a été nettement moins misogyne que la Grèce et aussi, il faut le regretter, beaucoup moins intéressée par les sciences. Les femmes romaines pouvaient recevoir assez couramment une instruction élémentaire. Il y avait à Rome de nombreuses femmes médecins, des médicas. Vers 200 avant Jésus-Christ, un certain Soranus a fondé à Éphèse une célèbre école de gynécologie et d'obstétrique. Qui nous a légué des traités qui ont constitué une véritable somme de connaissances jusqu'au début du Moyen-Âge. De nombreuses femmes ont été formées à Éphèse et ont enseigné. Et en tout cas, on doit à Rome deux institutions importantes. Afin d'éviter autant que possible la prolifération de médecins au savoir et aux compétences douteuses, les Romains ont créé des écoles de médecine publique avec un enseignement garanti par l'État et assuré par des professeurs fonctionnaires. Et deuxièmement, ces écoles acceptaient bien les femmes comme élèves et comme professeurs. Je vais maintenant quitter l'Antiquité pour continuer sur cette histoire de la médecine. Parce que durant tout le Moyen-Âge, en fait, des femmes ont pu à peu près librement pratiquer la médecine. Ça a été évidemment le cas dans des abbayes de femmes où de puissantes abbesses ont exercé un pouvoir spirituel et temporel considérable dont elles se verront ensuite dépouillées au fur et à mesure que l'on avance vers la Renaissance. Parmi les plus connues de ces puissantes abbesses, il faut évidemment mentionner l'étonnante Hildegard von Bingen, scientifique, musicienne, fondatrice d'un nouvel ordre religieux, d'un monastère réputé, mais aussi une puissance politique qui a joué un rôle d'arbitre entre l'empereur Frédéric, excommunié, l'empereur du Saint-Empire germanique, et la papauté. Donc une mystique, une musicienne, mais aussi l'auteur d'une encyclopédie pharmacologique, le Liber Simplicis Medicinae, le livre des simples médicinaux, écrit entre 1151 et 1158, dans lequel elle décrit plus de 300 plantes médicinales. Elle décrit leur utilisation et c'est un manuel qui a connu une extraordinaire diffusion dans toute l'Europe et qui était encore imprimé plus de 300 ans après sa première édition. Et qui a d'ailleurs servi de base à l'enseignement de la pharmacologie dans les premières universités de médecine. Autre exemple, dans les universités, dès leur naissance, ont été très liées au clergé, intoxiquées par les pires écrits misogynes d'Aristote, sauf en Italie. En Italie, la première faculté de médecine, Salerne, a été fondée selon la tradition par quatre maîtres qui enseignaient en grec, latin, hébreu et arabe. Et en fait, il s'agit de souligner que Salerne fédérait et enseignait un savoir médical issu de ces quatre traditions. Donc l'université de Salerne acceptait tant comme élèves que comme professeurs les femmes. Vers 1050, on y trouve une des plus célèbres femmes médecins du Moyen-Âge, qui est Trotula, à qui on attribue deux ouvrages qui ont longtemps servi de référence, le Trotula Major, dont un des titres s'appelle « Des maladies des femmes », qui a constitué une référence pendant plusieurs siècles pour la gynécologie et pour l'obstétrique, et le Trotula Minor, qui traitait des maladies de peau et de la cosmétique. L'université de Salerne a perduré jusqu'en 1811, où elle fut fermée sous ordre de Napoléon. Mais enfin, elle avait beaucoup perdu de son prestige à cette époque-là. Alors, j'ai dit que l'histoire de la médecine permet à merveille d'illustrer que l'éviction des femmes de la science a été brutale et criminelle. Et je vais vous en donner plusieurs exemples. Une première alerte s'est produite en Paris en 1322, avec le procès de Jacoba Felici et de quatre autres femmes médecins. Ces femmes ont été poursuivies au nom d'un édit de 1270 de l'Université de Paris qui interdisait l'existence de la médecine à quiconque n'avait pas étudié à l'université. Jacoba et ses collègues ont plaidé que cet édit avait été pris pour interdire l'exercice de la médecine aux charlatans. Elles mirent aussi en avant l'argument d'Agnodice et des femmes d'Athènes, selon laquelle de nombreuses femmes préféraient affronter la maladie et la mort plutôt que de dévoiler leur intimité et leurs infirmités à un homme. Jacoba était populaire, avait une clientèle importante d'hommes et de femmes, et qui vinrent témoigner en sa faveur. Néanmoins, Jacoba perdit et fut condamné à une forte amende et fut interdit d'exercice de la médecine. Les juges n'ont pas pu vraiment nier ses capacités, mais ils ont constaté que la médecine devait s'apprendre par l'étude des textes des anciens et non par des pratiques empiriques. Et leur argument principal a peut-être été que Jacoba, selon les termes du jugement, que Jacoba avait moissonné dans le champ des autres et détourné la clientèle d'honnêtes médecins bien formés par la faculté. De ce procès, la faculté de médecine de Paris gagna le monopole de l'exercice de la formation à l'exercice de la médecine. Ce genre de procès et ce genre de processus ne s'est pas déroulé qu'en France. Le pays où elles sont le plus documentées, c'est l'Angleterre. Je vais vous parler là de deux femmes médecins, Mrs. Payne et Mrs. Carlett. Dès 1547, une loi d'Henri VIII constate, en faveur des femmes, constate sévèrement que la Corporation des chirurgiens de Londres, uniquement préoccupée de leur profit et non du cas ou de l'intérêt des malades, ont poursuivi, molesté et empêché d'honnêtes personnes, aussi bien hommes que femmes, ayant une bonne connaissance de la nature, des espèces et de l'utilisation de certaines herbes et eaux, d'exercer la médecine. Alors cette loi d'Henri VIII a permis à nouveau à des femmes d'administrer certains traitements sans encourir ni poursuite ni vexation, mais ce répit a été de courte durée. En 1583, le College of Physicians, donc le Collège des médecins de Londres, s'est réuni pour étudier les moyens par lesquels nous pouvons empêcher les vieilles femmes ignorantes et itinérantes de pratiquer la médecine. On trouve ensuite donc une certaine Mrs. Payne qui a comparu une première fois devant le collège en 1607 pour avoir donné à un jeune syphilitique de forts purgatifs et un traitement à base de composés mercuriques, ce qui constituait un traitement finalement assez standard à l'époque. Le jeune homme en était décédé. Malgré cela, ses parents ont refusé d'accabler Mrs. Payne, dont ils ont considéré qu'elle avait correctement soigné leur fils. De plus, Mrs. Payne a fait valoir qu'elle n'exerçait pas illégalement la médecine puisqu'elle avait passé un accord avec un médecin célèbre londonien de l'époque sous l'autorité duquel elle était censée pratiquer. Et elle était d'ailleurs, semble-t-il, assez appréciée puisqu'elle pouvait exiger des honoraires doubles de ceux de la moyenne de ses collègues masculins. Alors le collège aux physiciens s'en est pris à plusieurs reprises à Mrs. Payne sans parvenir à la forcer à comparaître. Les registres mentionnent qu'elle a envoyé deux lettres absurdes pour s'excuser de son absence. En 1615, donc 8 ans après le premier procès, l'archevêque de Canterbury a témoigné qu'il pensait davantage de bien des traitements de Mrs. Payne que de ceux de tous les médecins d'Angleterre. 16 ans après la première bataille, en 1623, le collège des physiciens s'attaquait encore à un apothicaire accusé de lui préparer des remèdes. On perd ensuite la trace de Mrs. Payne. Sans doute était-elle suffisamment influente et bien protégée, et sans doute les médecins londoniens ne furent débarrassés d'elle que par sa mort. Mais vous voyez cette lutte des femmes pour le droit à exercer la médecine. Autre exemple, une certaine Mrs. Scarlett qui a comparu devant le même fameux College of Physicians en 1588. Elle traitait ses patients avec des onguents au mercure et à l'antimoine, encore rien d'extraordinaire. Le collège a commencé par l'expédier en prison sur dénonciation. Des personnalités de haut rang se sont mobilisées pour essayer d'en faire sortir. Mrs. Scarlett a refusé, lors de sa comparution devant le College of Physicians, d'abandonner sa profession. Soumis à des pressions, son mari a ensuite dénoncé l'une de ses collègues qui prescrivait des traitements abortifs. En fait, en 1619, donc 22 ans après sa première condamnation, vous voyez des combats quand même assez acharnés, Mrs. Payne, alors fort âgée, a promis de cesser de pratiquer la médecine, ce qui n'empêche que quelques mois plus tard, elle était à nouveau convoquée devant le College of Physicians. Donc vous voyez une exclusion des femmes de la médecine à travers ces quelques exemples qui ne s'est pas fait sans résistance. Mais il y a eu encore pire que ça. Et ça, c'est produit sous ce que nous appelons la Renaissance et encore même jusqu'à l'aube des Lumières. Et ça a été rapporté dans l'un des plus beaux, des plus émouvants textes de Michelet, La sorcière. Et je veux parler bien sûr des procès de sorcières. Alors comme on ne peut pas faire mieux que Michelet, bien je vais vous le citer. L'unique médecin du peuple pendant 1000 ans fut la sorcière. Les empereurs, les rois, les papes, les plus riches barons avaient quelques docteurs de Salerne, des morts, des juifs, mais la masse de tout État, et l'on peut dire le monde, ne consultait que la sage-femme. La sage-femme, c'est pas la sage-femme au sens actuel. Si elle ne guérissait, on l'injuriait, on l'appelait sorcière. Mais généralement, par un respect mêlé de crainte, on la nommait bonne dame ou belle dame, bella doma, du nom même que l'on donnait aux fées. Et entre parenthèses, d'où provient aussi le nom de belladone, dont l'on tire une plante, dont l'on tire un principe bénéfique pour le système cardiovasculaire. D'avoir été le médecin du peuple valait une récompense. Elles l'eurent. On les paya en torture, en bûcher. On trouva des supplices exprès, on leur inventa des douleurs. On les jugeait en masse, on les condamnait sur un mot. Il n'y eut jamais une telle prodigalité de vie humaine. Sans parler de l'Espagne, terre classique des bûchers, on en brûle 7000 à Trèves et je ne sais combien à Toulouse, à Genève 500 en 3 mois, 800 à Würzburg, presque d'une fournée, 1500 à Bamberg, 2 tout petits évêchés. Et les historiens de nos jours confirment bien ce qu'avait dit Michelet et ont montré que ces procès de sorcières ont été essentiellement aussi une lutte contre des femmes qui possédaient un savoir médical réel contre des guérisseuses. Ces détentrices de secrets de médecine empirique constituent une cible privilégiée pour les inquisiteurs et les juges séculiers, écrit l'historien Jean-Michel Salmand. Donc vous voyez une histoire d'exclusion qui, dans le cas de la médecine, a été même cruelle et criminelle. Je vous ai parlé un peu longuement d'une première raison d'oubli des femmes scientifiques et l'éloignement chronologique. Une autre raison d'oubli, c'est ce qu'on appelait le phénomène des assistantes invisibles. De nombreuses femmes ont en fait joué un rôle important, mais sont restées ignorées parce que leurs travaux ont été attribués à des hommes qui travaillaient avec elles, généralement leur mari ou leur frère. C'est le cas, par exemple, de très nombreuses astronomes, comme de Sophie Brahe au XVIe siècle, qui, avec son frère Tycho Brahe, a rassemblé, dans ce qui était alors le plus grand et le plus luxueux des observatoires jamais construits, a rassemblé les données astronomiques qui ont ensuite permis à Kepler, disciple de Tycho Brahe, de comprendre le fonctionnement du système solaire. Au XVIIe siècle, on trouve Maria Kirch-Winckelmann. Maria Kirch-Winckelmann qui succède à son mari, qui dirige l'un des plus grands observatoires d'Europe, l'Observatoire astronomique de Berlin. Mais l'observatoire est lié à l'Académie. Et dans la Prusse de Frédéric le Grand, il y a derrière la science des enjeux d'État importants. Alors Maria Kirch doit laisser attribuer ses découvertes à son mari puis à ses fils. Elle doit se dissimuler lorsque des visiteurs viennent à l'observatoire pour, je cite, « pour que l'Académie de Berlin, responsable de l'observatoire, n'endure pas le ridicule d'un calendrier établi par une femme ». Encore au siècle suivant, on trouve Caroline Herschel injustement éclipsée, si l'on peut dire, par ses frères, alors qu'elle a découvert à elle seule au moins une dizaine de comètes et un nombre ahurissant de nébuleuses et d'étoiles doubles. En chimie, au XVIIIe siècle, des femmes comme Anne-Marie Lavoisier ont joué un rôle important, Anne-Marie Lavoisier, donc aux côtés de son mari, dans ce qu'on appelait la révolution chimique. Au début du XIXe siècle encore, on trouve par exemple la mathématicienne française Sophie Germain, à qui on doit la première théorie mathématique de l'élasticité des matériaux, à qui on doit aussi des théorèmes importants sur les nombres premiers. Elle a failli rester complètement inconnue parce qu'elle avait dû prendre un pseudonyme d'homme pour se procurer les cours de mathématiques de la toute jeune école polytechnique pour correspondre aussi avec les mathématiciens du temps, tels Legendre et Gauss, qui ne l'auraient pas prise au sérieux s'ils avaient connu son véritable sexe. Autre exemple, cette fois d'une communauté entière de femmes invisibles, ou du moins oubliées, les femmes paléontologues de Limregis. Limregis, c'est un véritable miracle géologique anglais, un gisement crayeux d'une richesse incroyable, qui a été exploité par au moins quatre femmes, les trois sœurs Philbot et Marie Anning, qui ont découvert les premiers squelettes de plésiosaures, de dictyosaures, de certains pérodactyles, du squalorara aussi, qui est un poisson fossile intermédiaire entre les requins et les raies, et ceci de bien d'autres. La plupart de leurs découvertes ayant été attribuées à William Buckland, le cuvier anglais qui centralisait leurs travaux. Troisième raison d'oubli, les femmes se sont parfois, par la force des choses, spécialisées dans des domaines que les hommes scientifiques, et après eux les historiens des sciences, méprisent ou ignorent, et pourtant bien à tort parce qu'ils sont essentiels. Alors c'est évidemment le cas de la gynécologie, domaine dans lequel les hommes scientifiques ont longtemps manifesté une ignorance confondante. Et d'autre part, la société interdisait aux femmes de se faire examiner par un homme. Alors partout et en tout siècle, des femmes se sont organisées pour avoir le droit d'être soignées. Vous avez vu à Athènes l'exemple d'Agnodice. Pendant tout le Moyen-Âge, c'est en Italie l'étonnante école de Salerne avec Trotula. En France, c'est aussi, par exemple, l'extraordinaire Marguerite du Coudray, 1712-1791. Monsieur Fischer vous a un peu parlé. Marguerite du Coudray, qui était révoltée par l'ahurissante mortalité périnatale due à l'incompétence des matrones, révoltée aussi par les mutilations des femmes lors des accouchements. Donc Marguerite du Coudray a inventé des mannequins en cuir et bois très élaborés qui permettaient à des femmes, même illettrées, de se former à l'accouchement. Avec le soutien de l'administration royale, qui voulait consciemment faire de la France la première puissance démographique, ce qui sera réussi et explique en partie les succès de les guerres de la Révolution de l'Empire. Donc avec le soutien de l'administration royale, Marguerite du Coudray entame une mission qui dura 25 années dans toute la France. Avec bien des difficultés. Donc, dans toute la France, elle circule avec son école, avec ses mannequins de cuir pour former des sages-femmes. Pour anecdote, d'ailleurs, et pour illustrer les difficultés qui ont pu se poser, l'administration royale n'impose pas les sages-femmes de Madame du Coudray. mais pour lutter contre les matrones qui ne se faisaient pas payer très cher alors que les sages-femmes étaient mieux rémunérées, l'administration a décrété que la sage-femme devait être payée même si l'on préférait faire appel à la matrone. Donc les intendants royaux n'ont pas agi vraiment par la contrainte, mais par un système assez astucieux d'incitation. Pour parler d'un autre domaine considéré à tort comme mineur, il y a une longue tradition de femmes entomologistes qui sont nées au départ. Cette tradition est née au départ à partir des boutiques d'artisans typographes, de femmes illustratrices, peintres, graveurs de motifs floraux ou animaux. C'est par exemple au XVIIe siècle une étonnante hollandaise, Marie-Sybille de Merian, qui abandonne mari et atelier pour partir explorer la Guyane. Alors son but, c'était la recherche de nouveaux insectes capables de tisser des cocons de soie. Elle est revenue sans cela, mais elle est revenue en révélant à l'Europe émerveillée une flore et une faune qui étaient alors largement inconnues. Elle a laissé son nom à 6 plantes qu'elle a découvertes, 9 papillons, 2 scarabées. Et on trouve encore les ouvrages de Marie-Sybille de Merian qui sont vraiment des ouvrages d'histoire naturelle qui sont vraiment merveilleux, de véritables œuvres d'art, et en même temps que scientifiques. Pendant les Lumières, il faut citer aussi la grande œuvre de Réaumur sur les insectes qui doit beaucoup à sa collaboratrice, Madame Dumoutier de Marcilly. Parmi les lointains successeurs de Marie-Sybille de Merian à la fin du XIXe siècle, on peut encore citer l'anglaise Éléonore Ormerod, quelqu'un de formidable, qui est devenue la première entomologiste professionnelle salariée par l'État et qui a fondé une nouvelle discipline, l'entomologie agricole. Alors la spécialité de Marie Ormerod, c'est qu'elle est devenue une autorité mondiale en matière de prévision, de lutte, de prévention contre les insectes parasites de toute agriculture et élevage, insectes parasites des arbres fruitiers, des céréales, des légumes, des troupeaux, consultée par tous les paysans désespérés de tous les pays. Elle recevait plus de 1500 lettres par an. Et ce qu'elle a, par son savoir, ce qu'elle a permis d'économiser, les famines, les ruines qu'elle a évitées sont innombrables. Elle a fait sortir l'entomologie des cabinets de curiosité pour en faire une science de terrain très bénéfique. Et ce qu'elle dit vaut pour beaucoup de femmes scientifiques qui sont illustrées dans des disciplines peut-être moins prestigieuses que les mathématiques ou de la physique. Ces résultats que j'ai obtenus sont peut-être moins prestigieux que ceux que j'aurais pu attendre de recherches poursuivies dans le domaine de la science pure, mais j'ai aussi eu la satisfaction de servir mon pays en m'efforçant au mieux de mes capacités de découvrir les remèdes à de grandes misères. Donc oui, il y a eu des femmes scientifiques qui ont joué dans l'histoire, qui ont joué des rôles importants. Bon, pour l'époque contemporaine, Marie Curie, Lise Meitner en physique sont tout de même assez bien connues, mais néanmoins, il ne faut pas se voiler la face. Il y a eu beaucoup moins de femmes scientifiques que d'hommes, et ce n'est pas un défaut de méthode, ce n'est pas un défaut de perception des historiens, mais c'est bien le résultat d'une oppression qui a été systématique, violente et parfois même criminelle, comme j'en ai parlé à propos de la médecine. Donc l'exclusion des femmes de la science a été un phénomène bien réel, et je crois que pour l'expliquer, il faut revenir sur les origines de la science. Parce qu'on a dit qu'elles expliqueraient ce phémomène et encore finalement l'hémiplégie de nos sociétés en ce domaine. Alors, quelles sont les origines de la science ? La science, origine historique, la science occidentale est née dans la Grèce antique. Ça, j'en ai déjà un peu parlé. Origine sociologique, la science s'est développée dans les milieux universitaires, militaires et artisanaux. Alors la situation dans la Grèce, j'ai parlé de l'Athènes démocratique du 5e siècle, et un des sommets de la civilisation grecque. La tradition d'Aristote n'était pas évidemment très favorable aux femmes. Il n'y a pas eu beaucoup de femmes scientifiques, il n'y a pas eu non plus beaucoup de femmes philosophes. L'université médiévale, l'université a été pathologiquement misogyne, il faut bien le dire. Et évidemment, l'armée, en passant d'ailleurs au début, le mot ingénieur signifiait celui qui concevait des armes de guerre. Les grands ingénieurs du Moyen-Âge, la Renaissance concevaient des machines de guerre. Galilée travaillait à l'arsenal de Venise. Hein. Évidemment, ce milieu-là n'a pas non plus été très favorable aux femmes. Alors, de ces origines, finalement, il en reste une. Il reste la boutique et l'artisanat qui n'a pas exclu les femmes. Et cela explique, par exemple, le nombre relativement élevé de femmes astronomes pendant la Renaissance et pendant les Lumières, parce que nombre d'observatoires étaient des entreprises privées qui vivaient de la vente des almanachs et, il faut bien aussi le dire, des prévisions astrologiques. Même origine pour les femmes naturalistes, dont Sybille de Merian, dont je vous ai déjà parlé, qui commençait souvent comme illustratrice dans des boutiques d'imprimeurs et de décorateurs. Donc, des origines, est-ce que les origines de la science expliquent le fait que les femmes en aient été exclues? Je crois que c'est un peu simple comme explication. Parce qu'enfin, l'histoire aurait pu être, encore une fois, totalement différente. La Grèce, nous l'avons vu, n'a pas été uniformément misogyne, avec les figures de Pythagore et de Platon. L'université non plus n'a pas toujours été misogyne. En Italie, c'est peut-être un héritage de la relative liberté qu'ont connue les femmes dans l'Empire romain. En Italie, c'est un cas assez unique en Europe. Les femmes ont pu étudier et professer dans les universités en tout domaine et en toute période. Et c'est ainsi que l'Italie a connu notamment de grandes physiciennes au XVIIIe siècle, Marie Agnesi, Laura Bassi, des femmes médecins, même des femmes enseignant l'anatomie comme Anna Marie Manzolini, alors qu'il n'y avait aucune femme universitaire dans aucun autre pays européen. Mais là encore, donc, l'histoire aurait pu être différente. Autre îlot de résistance, la France de Descartes. Dans la France de Descartes, les femmes se sont passionnées pour les sciences, ont commencé à assister en masse à des cours de chimie, d'astronomie, de physique, encouragées par Descartes qui les considérait comme tout aussi capables que les hommes, et même davantage parce qu'elles au moins n'avaient pas l'esprit déformé par l'enseignement scolastique universitaire. Donc la science s'est largement faite sans les femmes, même si ça n'avait rien d'inévitable. La science s'est aussi souvent faite contre les femmes. Il faut bien l'avouer, en effet, que depuis qu'elle est apparue à toutes les époques, la science a été utilisée contre les femmes, et à toutes les époques, la science a servi à justifier, en fait, la situation faite aux femmes. Alors, c'est déjà sous l'Antiquité, Aristote, qui a lancé deux idées qui ont empoisonné longtemps le monde occidental. Première idée, la femme est un homme incomplet, et deuxièmement, le cerveau des femmes est moins gros que celui des hommes. On trouve ensuite la théorie des humeurs d'Hippocrate qui attribue à l'homme le caractère sec qui convient à l'abstraction des mathématiques et aux femmes le caractère humide. Alors, ça peut sembler caricatural, mais la théorie des humeurs d'Hippocrate qui, en son début, avait un caractère scientifique. Mais enfin, c'est encore sur la théorie d'Hippocrate que se base Kant plus de 2000 ans plus tard lorsqu'il affirme que les femmes n'apprendront jamais la géométrie. Et puis ensuite, on a au XIXe siècle la phrénologie, qui est la grande science anatomique du XIXe siècle, la phrénologie qui explique les dispositions intellectuelles et morales des hommes et des femmes par la forme extérieure de leur cerveau. Et évidemment, les phrénologues observent que la bosse des maths, la fameuse bosse des maths, l'expression la bosse des maths, ça vient de la phrénologie, et d'autres bosses également sont déplorablement absentes du cerveau des femmes. Aujourd'hui encore, plus récemment, c'est la théorie de l'évolution qui est assez souvent utilisée pour démontrer que finalement, il est parfaitement normal que les écoles d'ingénieurs soient pleines d'hommes qui ont le sens des mathématiques et de la compétition aiguisée par l'évolution. Et au contraire, les écoles d'infirmières sont réservées aux femmes parce qu'elles ont des capacités relationnelles, un sens de dévouement également sélectionné par des millénaires d'évolution. Ah bon, il y a quand même là-dedans quelque chose de curieux. C'est que ces fameuses qualités, pseudo-qualités purement féminines, les sociologues et les éthologues même diraient que ce sont en fait les qualités que développent les groupes sociaux dominés comme stratégie de résistance. Si évolution il y a, donc elle est plus sociologique que biologique. Pour rendre justice aux phrénologues, qui n'étaient pas moins intelligents que les biologistes moléculaires d'aujourd'hui, je vais revenir là-dessus dans un instant. C'est l'un d'entre eux, quand même, Léonce Manouvrier, qui a fait finalement définitivement justice de l'argument du cerveau des femmes, qui a repris l'ensemble des données. Bon, les phrénologues étaient passionnés par l'étude du cerveau, évidemment. Il a repris l'ensemble des données cérébrales collectées chez les hommes et les femmes, et il a conclu qu'il était impossible d'en tirer quelque conclusion que ce soit quant à leurs capacités intellectuelles respectives. Je trouve que, je fais une parenthèse, je trouve la phrénologie un cas intéressant parce que la phrénologie, quelles étaient les idées de la phrénologie? Première idée, on peut identifier, isoler des facultés intellectuelles et morales. Deuxième idée, ces facultés intellectuelles et morales sont localisées en certains endroits du cerveau. Là, juste, ça, c'est encore des choses qui reviennent assez périodiquement, cette histoire de localisation des facultés intellectuelles. Et troisièmement, ces facultés sont repérables à la forme extérieure du crâne, et ce sont les fameuses bosses. Et cette théorie de la phrénologie avait un caractère scientifique. Elle a conduit, par exemple, à la découverte de l'ère du langage par Broca. Gall, le fondateur de la phrénologie, était admiré en tant qu'anatomiste, même par ses adversaires. Mais je pense qu'aujourd'hui, cette histoire de la phrénologie me semble-t-il un grand intérêt, parce que la phrénologie a entraîné tout un ensemble de discussions sur le déterminisme biologique des dispositions et des comportements. Les phrénologues parlaient de la bosse du viol, la bosse de la violence, de l'homosexualité, la bosse de l'altruisme, la bosse de l'ivrognerie. Et ces discussions rappellent étrangement les discussions actuelles sur la génétique et sur ceux qui claironnent un peu facilement la découverte, eh bien, toujours du gène de l'intelligence, de la violence, de l'homosexualité, etc. Bon, voilà, parenthèse terminée.
5 minutes.
Oui. Bon, je vais accélérer. Alors quelques exemples de misogynie, peut-être là où on les attend le moins, chez nos fameux philosophes des Lumières. Avec cette fameuse phrase de Voltaire, qui est extrêmement expéditive, « Toutes les sciences ont été inventées par les hommes, aucun par les femmes. » Cette phrase de Diderot, qui est assez organique, « Chez les femmes, les sens dominent, non l'esprit. Elles portent en dedans d'elles-mêmes un organe incoercible, susceptible de spasmes terribles. » Enfin, on trouve presque Aristote encore. Hein, c'est... Rousseau, le plus dogmatique, « L'art de penser n'est pas étranger aux femmes. » Mais elles ne doivent faire qu'effleurer les sciences de raisonnement. Sophie conçoit tout et ne retient pas grand-chose. Pour la physique, elle n'en retient que quelques idées des lois générales et du système du monde. La recherche des vérités abstraites et spéculatives, des principes, des axiomes dans les sciences, tout ce qui tend à généraliser les idées, des points du ressort des femmes. Alors heureusement, il y a des hommes qui se sont élevés contre ça, des femmes aussi. Et rapidement, au XVIIe siècle, Descartes qui compte sur les femmes pour imposer sa révolution scientifique, en gros, la fondation de la physique mathématique. Descartes, son biographe, Bellet, qui l'a bien connu, a dit « Il ne se déplaisait point à la conversation des femmes parce qu'en matière de philosophie, il les trouvait plus douées, plus patientes, plus dociles, en un mot, plus vides de préjugés et de fausses doctrines que beaucoup d'hommes ». Il y a aussi, à la fin du XVIIe siècle, cet étonnant disciple de Descartes, Poulain de la Barre, qui consacre un livre entier et visionnaire à la question des femmes. Ce livre s'appelle « Le traité de l'égalité des deux sexes », paru en 1673, avec une phrase célèbre « L'esprit n'a point de sexe ». Et c'est en fait un traité dans lequel Poulain de la Barre applique la méthode cartésienne du doute systématique aux préjugés contre les femmes. L'esprit n'a point de sexe, il est aisé de remarquer que la différence des sexes ne regarde que le corps. Si on le considère lui-même, on trouve que l'esprit est égal et de même nature chez les hommes et les femmes. Bien, les femmes peuvent apprendre la logique, les mathématiques, l'astronomie, la grammaire, le droit et la politique, la géographie, l'histoire. Elles sont par conséquent capables d'enseigner, capables de prendre le titre de docteur et de maître en théologie ou en médecine, capables d'exercer l'autorité politique, il était en avance, hein, Poulain de la Barre, les dignités ecclésiastiques de général d'armée, magistrat. Bien évidemment, il n'y a pas que les hommes qui se sont... Certains hommes se sont révoltés contre la situation faite dans les sciences aux femmes, certaines femmes aussi. Rapidement, quelques noms. Christine de Pisan, 1364-1430, avec un ouvrage qui s'appelle « La cité des femmes », dans lequel elle cite un certain nombre de femmes qui se sont illustrées dans les sciences avec cette phrase. Mais si la coutume était de mettre les petites filles à l'école avec leurs frères et que communément on leur fit apprendre les sciences comme on le fait aux fils, elles apprendront aussi parfaitement et entendront les subtilités de tous les arts et sciences comme ils font. Une autre femme française à la Renaissance, Marie Lejar de Gournay, qui a été celle à qui l'on doit la version définitive des Essais de Montaigne et qui a publié un livre intitulé « L'égalité des hommes et des femmes ». Un autre livre s'appelle « Le grief des femmes », dans lequel elle encourage les femmes à s'emparer des sciences pour s'épanouir, dans lequel elle défend l'égalité intellectuelle des hommes et des femmes, avec notamment cet argument théologique que personnellement j'aime beaucoup parce qu'il est assez représentatif du style de Madame de Gournay. « La femme a-t-elle été créée à l'image de Dieu ? Ça dépend de l'importance qu'on donne à la barbe. » Voilà. pour aussi un autre texte, Émilie Duchâtelet. Émilie Duchâtelet, évidemment, pour protester contre ce phénomène dont je vous ai parlé, des assistantes invisibles. Une citation d'une lettre émouvante d'Émilie Duchâtelet, écrite au moment où elle travaille jour et nuit pour achever sa traduction de Newton, en luttant contre une mort qu'elle craint. Elle était tombée enceinte à plus de 40 ans, et à l'époque, effectivement, elle est morte en couche. Donc jugez-moi sur mes propres mérites ou sur mes manques, mais ne me considérez pas comme un simple appendice de ce grand général ou de ce savant renommé, cette étoile qui brille à la cour de France ou cet auteur célèbre, Voltaire. Je suis par moi-même une personne complète, seule responsable de moi-même pour tout ce que je suis, tout ce que je dis, tout ce que je fais. Il se peut qu'il existe des métaphysiciens, des philosophes plus savants que moi, bien que je ne les ai pas encore rencontrés. Donc, ce qui s'est passé, je vais conclure là-dessus, ce qui s'est passé en Occident, qui c'est assez typique du développement, c'est que l'exclusion des femmes de la science a en fait été renforcée par la proximité et par le pacte entre la science et le pouvoir politique. Et là encore, c'est le cartésien Poulain de la Barre qui a le mieux résumé la situation qui allait s'installer. On fit des académies où l'on n'appela point les femmes, et elles furent de cette sorte exclues des sciences comme elles l'étaient du reste. Donc, dès que le pouvoir politique s'occupe de l'organisation de la science, les femmes en sont exclues. C'est le cas des académies des sciences, de l'Académie française, puis de l'Académie des sciences. C'est le cas de la Royal Society en Angleterre. C'est le cas pratiquement de toutes les sociétés savantes, de l'Académie des Lincei en Italie. Donc, toutes ces institutions qui scellent le pacte entre la science et le pouvoir politique excluent les femmes. Mais là encore, une remarque. L'histoire s'est jouée de très peu. Et en ce qui concerne l'Académie française, Marie de Gournay, dont je vous ai parlé, avait de nombreux partisans. Et les statuts originaux de l'Académie française n'excluaient pas les femmes. Et d'ailleurs, un des premiers académiciens, Pierre Richelet, avait mis le mot « académicienne » au dictionnaire. Hein? Donc là encore, une histoire qui n'avait rien décrit. Mais ce qui se passait de cette façon assez mufle, on a refusé l'Académie à Marie de Gournay en raison de son âge. Lors de la création de l'Académie, puis très vite, on a ajouté une clause interdisant l'élection des femmes à l'Académie. Alors, il y a un point là qui est spécialement douloureux, peut-être pour un Français, c'est que c'est en France, finalement, que les femmes, grâce à la révolution cartésienne, se sont vues reconnaître l'égalité intellectuelle, ce qu'une historienne a appelé joliment un droit imprescriptible à l'intelligence et à l'instruction. Et c'est en France aussi que sont apparues les premières institutions d'État pour l'instruction supérieure des filles, du Saint-Cyr de Madame de Maintenon, ensuite à la Maison de la Légion d'honneur de Madame de Campan sous Napoléon. Mais c'est aussi en France qu'apparaît l'organisation moderne de la science, avec ses scientifiques de profession spécialement sélectionnés et formés qui collaborent entre eux, qui publient, se critiquent, conçoivent des programmes de recherche, et de cela les femmes sont exclues. En fait, un établissement scientifique, encore une fois lié au pouvoir politique, s'est créé. Or, si, pour reprendre l'expression de Poulain de la Barre, si l'esprit n'a pas de sexe, l'establishment scientifique, lui, en a un, et ce sexe est masculin, d'autant que l'enseignement scientifique de qualité s'est au départ fait essentiellement dans les écoles militaires. Donc, si j'ai écrit ce livre, et si je continue à parler de l'histoire des femmes scientifiques, c'est parce que je crois qu'avant tout, il faut que tout le monde ait conscience qu'il existe bien une question féminine, comme on parle d'une question sociale, et que effectivement les femmes ont été largement exclues de ce destin caractéristique de l'Occident, de ce qui a donné sa prospérité, assuré sa domination, le progrès scientifique et technique. Cette exclusion a été injuste et violente. Il faut que personne ne puisse la nier. Il faut que personne ne puisse s'étonner, comme Voltaire, Rousseau ou Kant, qu'il n'y ait peu de femmes scientifiques. Et j'ai aussi voulu que les trop rares femmes scientifiques de l'Antiquité à nos jours ne soient pas oubliées, ni ne soient pas oubliées non plus les mesquineries, les difficultés, les injures parfois, les persécutions qu'elles ont subies, pour qu'elles puissent servir de modèle et d'encouragement, et surtout, bien évidemment, pour qu'aucune femme ne soit contrainte à renoncer à une vocation scientifique si elle en a les capacités ou le désir. Merci de votre attention.
Merci beaucoup, Eric Sartori. Il fallait ce temps-là. C'est la deuxième fois que j'entends votre conférence et vraiment, je suis à chaque fois scotchée, comme on dit maintenant, parce que c'est terrifiant, quoi. Donc, il existe en effet maintenant des associations. Il y a eu des colloques sur les femmes. Il y a ce qu'on appelle les gender studies en histoire des sciences, sociologie des sciences. Mais quand on regarde le passé, on voit à quel point le chemin a été long. C'est très impressionnant. Et en effet, Madame du Coudray, j'ai eu un réflexe tout de suite. Je suis allée voir le livre Aventure scientifique en Poitou-Charentes qu'on a édité. Et Madame du Coudray n'y est pas. Alors je lui dis, alors là, il n'y a pas beaucoup de femmes. Il y en a, des femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc dans les savants qu'on a sélectionnés, il n'y a que des hommes. Hein, voilà. Il y a une femme qui a écrit un article. C'est une physicienne, mais c'est sur un homme. Donc Madame du Coudray est très connue ici. On trouve ses ouvrages à la bibliothèque universitaire, des magnifiques ouvrages. Les médecins qui font des conférences ici en parlent. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui a une grande renommée. Vous parlez de Réaumur, c'est un homme, il est de La Rochelle. Bon, écoutez, il y a des choses à faire. Je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose, un livre ou même peut-être une journée d'études sur les femmes et la science en Poitou-Charentes. Il y a de l'émulation. Il y a vraiment de l'intérêt, même l'Université de Poitiers, l'assesseur de l'Université de Poitiers est très intéressé par ces sujets, fait partie de comités justement qui travaillent sur les femmes et la science. Mais je pense que leur approche est différente parce que c'est faire le point actuel de manière à gagner du terrain, si je puis dire, parler de manière militante, hein, c'est ça. Mais quand on voit cette histoire, on voit quand même qu'il y a un chemin acquis. Et par contre, que les douleurs ne sont pas terminées. Quoi. C'est-à-dire, il y a quand même des hommes qui disent des belles choses sur les femmes. Et puis Descartes, de toute façon, il avait intérêt à être sympa parce qu'il est parti aussi grâce à Catherine de Suède. Il a pu s'exiler. Donc il avait aussi intérêt, si je puis dire, un petit peu, de manière familière, à se faire poupouner parce que, voilà...
Hein? Enfin, d'un autre côté, il en est mort quand même.
Oui, je sais qu'il en est mort, mais il est mort là-bas. Il est mort là-bas, mais bon, il est mort là-bas.
Son philosophie à 5 heures du matin, c'était pas trop son.
Voilà, exactement, ça l'a très fatigué, mais tant pis. Hein? Voilà, donc merci beaucoup, c'était passionnant. Donc, je laisse la parole à la salle. On a 10 minutes, si vous voulez, de débat. De toute façon, je pense qu'on sera en retard. Donc ce qui veut dire qu'on recommencera à 14h15, si vous le voulez. Et puis voilà, je vous laisse la parole. C'est un homme qui va poser la première question.
Je vais bien poser une question. Enfin, j'en ai plusieurs, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Mais concernant, par exemple, les pays communistes, est-ce que vous avez fait une étude particulière montrant, si finalement on peut penser bon, ce qu'on veut de ces régimes-là, mais bon, les femmes, donc, sont des sociétés un peu productivistes, étaient normalement mises en avant. Est-ce que, finalement, elles ont davantage contribué dans ces pays-là à un apport scientifique ou pas? Et puis après, je vous dirai un peu pourquoi je pose cette question.
Ouais. En fonction de la réponse.
Je me suis intéressé à des époques plus lointaines, à une plus longue période. Mais vous avez raison. Il y a sûrement eu plus de femmes scientifiques qui ont pu accéder à des carrières scientifiques dans les pays communistes. Mais si vous prenez l'Académie des sciences de l'URSS... il se produit le même phénomène. Plus vous montez dans la hiérarchie politique et scientifique, et plus les femmes en sont exclues. Mais on a trouvé, c'est sûr que dans l'URSS ou dans les autres pays, la plupart des autres pays communistes, il y avait d'excellentes formations scientifiques auxquelles les femmes avaient accès. Il y avait beaucoup d'ingénieurs femmes, contrairement beaucoup plus que dans les pays occidentaux.
Oui, alors j'ai posé cette question parce que finalement l'Europe finance beaucoup, notamment dans les ex-pays communistes qui sont devenus européens, enfin qui appartiennent à l'Union européenne, finance donc notamment les carrières scientifiques des filles, notamment en ex-RDA, etc. Et donc actuellement, il y a justement parce qu'il manquait quelque chose. Donc je le dis parce que personnellement je connais, donc j'ai mon fils qui travaille justement à auditer justement d'où va cet argent donc est important et finalement les filles donc de ces pays communistes étaient en retard dans leurs études scientifiques, donc c'est ce qui me surprend un petit peu. Elles n'avaient pas donc de moyens qui étaient donnés et actuellement c'est l'Europe qui le donne.
Est-ce que c'est pas lié à l'effondrement plutôt des régimes finalement ça peut-être des points de vue. Bon, je connais mal la situation, mais chez les ingénieurs, je pense qu'il y avait on pourrait retrouver les chiffres. Je pense qu'il y avait beaucoup plus de femmes ingénieures en Russie qu'en proportion.
Ouais.
Bon, les salons étaient littéraires et tenus et scientifiques et tenus par des femmes. C'était les femmes qui animaient les salons. Elles avaient le droit d'aller dans les salons quand même.
Oui, c'était la période bénie du 17e, 18e siècle.
Oui, sans faire de lien trop rapide entre la politique et les sciences, est-ce que le fait, par exemple, qu'on ait connu une royauté avec des reines en Angleterre n'est pas en fait pu favoriser l'émergence de femmes scientifiques en opposition à la France où le pouvoir était exclusivement réservé à des hommes?
Alors, réponse absolument pas. Au point de vue scientifique, l'Angleterre a été au moins aussi misogyne que la plupart des autres pays. D'ailleurs, j'en ai un peu parlé à propos de l'histoire de la médecine, où on a en Angleterre toute cette série de procès contre des femmes qui voulaient continuer à exercer la médecine. Non, le seul pays qui se distingue là, en Occident, c'est l'Italie. Bizarrement, c'est l'Italie. Bizarrement, parce qu'en raison de l'influence de l'Église, on aurait pu s'attendre à une situation un peu dégradée pour les femmes. Mais l'Italie est quasiment le seul pays occidental qui a accepté, à la fois comme élève et comme professeur, des femmes dans ses universités, et ceci pratiquement dès leur fondation et pendant toute leur fondation, 17e siècle, 18e siècle, etc.
Attendez, madame. C'est obligatoire. Je suis désolée.
Oui, justement, vous évoquez peu l'impact de l'Église et vous insistez surtout sur les pouvoirs politiques. Alors, ça fait un peu surprise parce que c'est... Ça me semblait une des causes, l'image de la femme. Ah oui, alors c'est peut-être un axe que vous avez choisi.
Non, enfin ça c'est une... Je crois que dès que la science a partie liée avec le pouvoir politique, les femmes sont de plus en plus exclues. Ça c'est clair sous Napoléon en France, où la France devient à la fois... La puissance scientifique dominante, et par rapport au XVIIIe siècle, la situation, le rôle intellectuel des femmes est moindre. En ce qui concerne l'Église, je vous dis, il y a ce contre-exemple de l'Italie. Ce qui est sûr, c'est que là où l'Église, partout ailleurs, dans l'université, l'Église a sévèrement exclu les femmes. Et on trouve des textes au Moyen-Âge d'une misogynie, d'une grossièreté absolument consternante, pathologique même.
Donc on aura encore une thématique sur les femmes, parce qu'il y a un titre quand même de la prochaine conférence qui sera donnée par Jacqueline Carrois, donc directrice du Centre Coiré, et elle a travaillé en équipe avec plusieurs auteurs, et le titre de l'ouvrage est assez intéressant et révélateur, c'est les femmes dans les sciences de l'homme, 19e, 20e, inspiratrices, collaboratrices ou créatrices. Voilà. Et on aura aussi une autre conférence dans le cadre des Amphis du Savoir. Est-ce qu'il y a... Non, mais c'est parce que quand j'ai vu ce titre, je me suis dit, voilà, on peut en parler aussi, mais je vous invite à venir écouter Jacqueline Carrois.
C'est vrai que je me suis un peu borné aux sciences exactes.
Oui, j'avais une question. Vous nous avez parlé un petit peu tout à l'heure, la différence entre le cerveau homme et femme, c'est quelque chose qui revient beaucoup à la mode en ce moment. Et justement, je voulais savoir si vous étiez intéressé à la chose et est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots.
Ouais, ça, franchement, allez sur le site, tapez Catherine Vidal.
Exactement.
Voilà, et puis c'est vraiment la... Enfin, c'est une neurobiologiste, hein, neurologiste de l'Institut Pasteur. Oui, je peux vous en parler un peu quand même. Disons... Il y a déjà un premier facteur, c'est qu'une étude qui montre une différence entre le cerveau des hommes et des femmes a beaucoup plus de chances d'être publiée que l'étude qui la réfutera. Bon, déjà, ça c'est un peu... c'est comme ça. Et Catherine Vidal a fait vraiment un travail formidable en faisant ce qu'on appelle une méta-analyse de toutes les publications consacrées au sujet. Et en fait, il n'en sort rien. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un sujet légitime d'étude. C'est-à-dire, il y a des processus différents qui peuvent se passer dans le cerveau des hommes et des femmes. Elles peuvent traiter, ou même les hommes entre eux, les différences interindividuelles, les différences entre sexes dans le fonctionnement du cerveau. Je ne vois pas pourquoi il faudrait proscrire. Enfin, il faut se méfier aussi de l'attitude inverse qui consisterait à interdire ce genre d'études. Mais pour l'instant, et même si dans certains cas, on montre que le cerveau des femmes fonctionne différemment de celui des hommes, ça n'a pas forcément une incidence sur leur performance. Et Catherine Vidal a suffisamment montré l'inverse même. Je crois que,
Elle vient de temps en temps chez nous, ouais. Dans le cadre des Amphis du Savoir. Elle est venue deux fois déjà. Très bonne référence.
Mais je parlais de ça parce qu'en fait, on entend beaucoup de conclusions qui me paraissent énormément hâtives, en fait, et c'est assez inquiétant, quoi. Ça procède plutôt d'un retour en arrière par rapport à l'histoire dont vous nous avez parlé. Donc, c'est pour ça que je m'inquiète un petit peu.
Non, mais je crois que c'est clair. Pour l'instant, il y a, quand on se livre, ce qu'a fait Catherine Vidal, pour l'instant, il n'y a aucune preuve de quelque différence intellectuelle que ce soit entre les hommes et les femmes. Pour reprendre l'ensemble des études. Et là, vous dites, c'est là que l'histoire est intéressante, parce que, comme je vous ai dit, à toutes les époques, la science a été utilisée, contre les femmes, c'est contre les femmes, mais en gros, pour aussi justifier l'ordre social existant. C'est une utilisation possible de la science, une tentation qui a toujours existé. Donc, c'est pas surprenant qu'on le voit ressurgir périodiquement.
Oui. Oui. Et c'est vrai que vous avez annoncé les chiffres au départ, donc de 8% des femmes et 3% au niveau mondial. Donc, en fait, elle existe encore, cette pression. Enfin, l'histoire, pas forcément, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Enfin, même si on a la réflexion sûre, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Enfin.
Alors on peut quand même pas dire ça. Aujourd'hui, les facultés de médecine comptent. Je vous ai dit que pendant des siècles, les femmes avaient été exclues de l'exercice de la médecine et même violemment. Aujourd'hui, les facultés de médecine comptent même plus de femmes que d'hommes. Donc il y a quand même eu des. Heureusement, la situation a progressé. Et finalement, je dirais qu'aujourd'hui, il y a deux choses. D'une part, il y a toujours cette tentation d'utiliser la science pour justifier l'ordre social existant, en particulier la situation faite aux femmes. Mais dans la pratique de la science, je crois qu'on est normalement, en tout cas dans certains domaines, en médecine, en chimie, on n'est pas loin de l'égalité. Après, il y a ce phénomène qui existe, mais qui existe aussi dans la finance, qui existe un peu dans tous les domaines, qui est ce fameux phénomène du plancher de verre, du plafond de verre, pardon, ou du plancher collant, qui fait que les femmes s'élèvent moins dans la hiérarchie que les hommes, mais ça, c'est pas particulier aux sciences. D'accord. Alors, ce qui reste, c'est qu'effectivement, on voit que quand même, et c'est clair avec les chiffres que je vous ai cités, les femmes sont dissuadées, malgré tout, d'entreprendre des études scientifiques. Je crois que c'est là qu'il faut peut-être se battre.
Oui,
puis sont dissuadées ou se dissuadent. Et d'ailleurs, il y a un débat qui est intéressant parce qu'il y a des. On a par exemple montré que dans des classes de mathématiques, les enseignants, qu'ils soient hommes ou femmes, interrogeaient plus les garçons que les filles. Hein? Il y a des stéréotypes qui se reproduisent comme ça. Et certains en ont tiré une conclusion qui a été mise en pratique aux États-Unis et dans d'autres endroits, qui est de créer des enseignements non mixtes. Dans certaines disciplines où existe des classes de mathématiques, c'est en technologie, c'est encore plus fort, de créer des classes de technologie pour les filles et pour les garçons. Bon, moi je suis partisan d'une société mixte et je trouve un peu difficile de créer une société mixte à partir d'un enseignement qui n'est pas, mais n'empêche que les gens qui ont fait ça disent obtenir de bons résultats. Je sais pas.
Et les statistiques qui ont été faites aussi, des études faites, il faudra retrouver ça sur Internet, en effet, sur l'intériorisation chez les filles plus importante de la peur de l'échec en science.
Oui, tout à fait. Hein? Oui,
si vous allez dans les lycées, que vous interviewez les filles, vous dites, écoutez, moi, ça sera beaucoup plus difficile pour moi de faire des sciences que de faire des lettres. Ouais. Voilà, donc ça a existé, ça a été étudié, quantifié. Hein.
Oui, tout à fait. Donc là encore, donc non, on ne peut pas dire qu'on n'ait pas progressé, mais oui, il reste encore des choses à faire.
Voilà, je pense que là, on est tous d'accord, les femmes et les hommes ont faim. Alors, la feuille avec tout le programme de demain, excusez-moi, il y a un blanc, j'ai enlevé donc l'intervention de Sébastien Soubiran qui ne peut pas venir. Donc je l'ai mis en pile. Et puis pour ce qui concerne Poitiers, il y a un plan à l'accueil, les possibilités de déjeuner dans le centre qui est à 5 minutes. Hein. Donc à 14h15, merci de votre écoute, à tout à l'heure. Merci à nos conférenciers.